Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en juillet 2012 et c'est le numéro 16. Bonjour à tous, donc pour ce numéro je suis en compagnie de Cyril.
Bonjour Cobal.
Mais également en compagnie d'un nouveau chroniqueur qui rejoint notre émission et c'est Michael.
Bonjour Cobal.
Bonjour Michael.
Bonjour Cyril.
Bonjour Cobal.
Bonjour Cobal.
Bonjour les enfants. Dans ce numéro nous aurons les critiques d'étranges époques pour l'appel de Cthulhu, de On Mighty Fuse et un retour d'expérience.
On peut dire ça comme ça.
Sur Warhammer 3ème édition. Mais avant cela, et comme d'habitude, voici les news. Alors, pour débuter ces news, nous avons tout d'abord la traduction en anglais des Ombres d'Estorren.
Alors, je tiens à t'interrompre deux secondes pour te faire ma prédiction, car je suis Madame Irma à mes heures perdues.
Oui.
Alors, je peux te prédire l'échec de cette version en anglais dans le pays de l'oncle Sam.
Mais comment ça? Pourquoi donc?
Alors, d'expérience, après les longues analyses et les discussions que j'ai eues avec mon droïde de protocole, il s'avère que, à sa connaissance et à la mienne, aucun jeu français traduit en anglais a trouvé le moyen, en tout cas en jeu de rôle, de réussir. Tout simplement, d'atteindre ne serait-ce que le point mort, par exemple, ce qui serait déjà une très belle chose. De nombreuses expériences, que ce soit 7e cercle, Multisim, et quelques autres. Néphilim, d'ailleurs, à l'époque. Néphilim avait été.
Oui,
il s'était
oui,
arrangé. Je pense que le plus sage, parce que même quand les traductions, j'ai souvent été faites en France et envoyées là-bas, même quand les traductions ont été faites là-bas, par des gens du cru, il faut croire que le fait que ce soit un jeu français n'est pas si vendeur que ça, j'imagine.
Allons, nos bons jeux viennent chez nous.
Bah oui, mais bon, il faudrait peut-être, je sais pas, s'arranger pour que ce soit un éditeur local qui paye l'impression, comme ça, au moins ils feront les économies, éviter de se retrouver avec une grosse ardoise.
Ou les vendre uniquement en PDF.
Voilà, par exemple, je pense que c'est plus sage. Faut éviter de faire de gros investissements parce qu'ils risquent d'y laisser beaucoup de choses.
Il y avait une édition de Rêve de Dragon aussi, je crois, en anglais.
Ah bon? Ah ça, je savais, ouais. J'avais pas suivi ça, je ne savais pas.
Je suis déjà tombé dessus, je crois.
Ah ben, eh bien, tu m'apprends quelque chose. Voilà.
Bon. Eh bien, bon, ma foi, on verra bien ce que ça va donner.
Bonne chance en tout cas, les gars, hein, bonne chance. Hein.
Et il y avait aussi eu une édition donc, de Vampire d'Hexagonal qui avait été traduite en anglais.
Tout à fait, mais d'ailleurs, je crois que...
Par White Wolf.
Oui, c'est ça.
Ah oui, avec un petit traducteur débutant, là, machin, à gun, je sais pas quoi, là, c'est ça.
Ah, je me souviens plus des figurants, je retiens pas. Quoi.
Je crois qu'il était courant, ouais, il était fluent en français. Mm-hmm. Par contre, je crois que c'est un jeu qui a pas trop marché en anglais. Il a très bien marché en français, mais aux États-Unis non plus, il a pas très bien marché.
Ouais, un petit jeu quoi.
Ouais, c'est ça.
Un jeu de niche. Mm. Alors, sinon, il y a, comme vous le savez maintenant, que c'est parti, Kickstarter, Ulule, tout ça, les projets de jeux de rôle, ça y va à la va comme je te pousse, il y en a plein.
Ulule? Ah, c'est la première fois que je l'entends comme ça.
Tu n'entends pas, tu connais pas Ulule.
Moi, je dis Ulule généralement, mais je connaissais pas Ulule.
Bah, c'est l'action d'enchérir sur Ulule. Tu.
D'accord. et éventuellement, le fondateur, c'est Yuku.
Yuku Tsunu.
Voilà.
Non, oh là là. Là, si j'aurais des jingles, je ferais poids, 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 poids.
Ouais, c'est ça.
Donc, parmi les nombreux projets, il y en a un notamment pour avoir un logiciel qui permet de faire du jeu de rôle en ligne. Et il s'agit d'un plugin pour les bulles de Google+. Donc, les bulles étant le nom de leur visioconférence par Google. Et donc il y a un projet Kickstarter qui s'appelle Tabletop Forge et qui va proposer tout un tas d'outils, notamment de dessin, pour pouvoir importer ses cartes, ses trucs. Et il y aura également fourni avec tout un tas de plans, vu du dessus, tout ça, pour pouvoir se faire ses propres donjons. Il y aura également des créatures, vu du dessus également, que l'on pourra déplacer, et voilà. Donc il y a eu plein de... Le logiciel a été, comment dire, kickstarté bien au-delà de 100%, ce qui fait qu'il y a plein de
choses qui vont se rajouter.
Voilà, de suppléments qui ont été ajoutés au truc. Et ma foi, ça a l'air marrant.
Ils ont levé combien, par curiosité, à peu près? Dans les centaines de millions de dollars, centaines de milliers de dollars, pardon.
Non, putain, je sais plus. Je crois que c'est 35 000 ou 36 000 dollars pour le moment.
D'accord, bah c'est bien.
Et je crois qu'au début, c'était peut-être 4-5 000.
D'accord.
Du genre.
Ouais, c'est bien.
Sinon, toujours dans les logiciels, voulais nous parler de...
Oui, alors il y a deux logiciels qui me paraissent. Un qui me paraît vital pour tous les maîtres de jeu qui maîtrisent en musique ou qui utilisent des bruitages. Si vous ne connaissez pas Soundplant, vous allez sur soundplant.org. Soundplant, S-O-U-N-D-P-L-A-N-T. C'est un logiciel qui vous permet en fait d'affecter des sons, des musiques à des touches de votre clavier. Et vous pouvez créer des keymaps, donc des cartes de clavier. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et pour chaque son, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez attribuer des fonctions. Vous pouvez créer des boucles sur un bruitage ou un son. Vous pouvez décider quand vous appuyez, vous le lancez. Quand vous rappuyez, ça fait une fondue à l'arrêt et au lancement. Il y a plein de configurations possibles. C'est gratuit. Il y a une version qui est payante où on peut en plus lancer des vidéos si on veut. Bref, ce truc-là, c'est juste... Et vous cherchez pas à vous télécharger.
Sur la version payante, il y a également le fait de pouvoir manipuler beaucoup plus de types de fichiers de son.
Genre les OGG, les trucs comme ça, je crois, si je m'en rappelle bien.
Ça tombe bien, en fait, parce que c'est pas toi, David, qui parlait de lancer un podcast sur le jeu de rôle. Ça pourrait être utile pour...
C'est une bonne idée.
Ça, qu'on se...
Plutôt qu'un podcast sur les logiciels, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Mais non, donc soundplant.org, vous y allez, vous le téléchargez, c'est gratuit. Si vous voulez, je sais qu'il y aura une nouvelle version qui va sortir encore cette année, le développeur qui le fait, et il continue de développer dessus. Ouais. Il a d'ailleurs certifié déjà que ça marchera sur Windows 8 quand Windows 8 sort. Ça marche sur PC et Mac, pas Android, pas iOS, parce que les systèmes ne le permettent pas forcément.
J'ai lu également que ça pouvait tourner sous Linux avec Wine, donc pour les connaisseurs, ils sauront que voilà.
Et vous pouvez lancer 8 pistes en même temps, donc 8 bruitages en même temps, 8 musiques en même temps. Et c'est vraiment, quoi, vraiment c'est idéal. C'est l'outil que je viens de découvrir et que maintenant j'utilise plus que ça. Il n'y a pas besoin d'autre chose, il faut avoir un ordinateur portable. Malheureusement, les tablettes, sauf si vous avez une tablette Windows ou une. C'est la seule chose qui vous permettrait de le lancer, sinon c'est un ordinateur portable. Et l'autre chose qui est utile pour ceux qui aiment bien faire de la synthèse de voix, donc à partir d'un texte écrit, que ça parle en anglais ou en français, il y a un logiciel payant, mais sur lequel il y a une démo sur le site, qui est limitée à 300 caractères, mais donc en l'enregistrant plusieurs fois, on peut quand même le faire, qui s'appelle Natural Readers, donc tout ça en un seul mot, NATURALREADERS.com. Donc sur la page d'accueil, en fait, vous avez une petite fenêtre où vous pouvez mettre jusqu'à 300 caractères et puis votre texte écrit, ça devient du lu. Donc typiquement pour un scénario cyberpunk au hasard, vous voulez vous faire le journal télé sans avoir la vidéo, vous faites vos textes, vous les enregistrez ensuite derrière et avec Soundplant, vous lancez les jingles, vous lancez les news, jingle, news, jingle, news et ainsi de suite. Et voilà, et vous avez un truc clé en main.
Alors, Michael,
faire les pubs aussi, les trucs.
Voilà, exactement.
Donc là, tu as trouvé deux outils sympas, mais en fait, ça fait des années que tu agrémentes les parties de jeux de rôle d'audio. Quand je dis des années, je crois que j'étais né, mais
je crois que ça fait 18 ans que je fais ça. Donc,
voilà. Et t'as déjà écrit des articles, etc. Et je voudrais savoir, sur le vu de fait, parce qu'on reste dans la news là, mais est-ce que du coup, tes joueurs sont. Tu leur as inculqué des réflexes un peu pavloviens quand ils entendent des musiques
Alors tout dépend comment on maîtrise en musique.
Ils se mettent à baver.
On peut maîtriser en musique en ayant la musique tout du long, en ayant des musiques plus fortes pour des scènes bien précises et en mettant une musique de fond tout du long. Moi, c'est avec le temps, c'est pas ce que je plébiscite. Je plébiscite plutôt des bruitages qui mettent dans l'ambiance sonore. Typiquement, vous faites un scénario, il y a une scène dans un avion, un bruit de fond du bruit que vous avez dans un avion, des annonces des hôtesses par moment qui n'ont rien à voir avec le scénar mais qui vont se faire, et une musique quand il y a une scène marquante. Pour que les gens sentent, ils sentent d'abord les joueurs, ils se mettent du coup dans l'ambiance, ils savent que oh là, il se passe quelque chose, donc du coup, ils se réveillent s'il y en a qui sont en train de s'endormir, ça peut arriver, ça tombe jamais. Et donc voilà, après, selon l'école, et je m'arrêterai là-dessus, on peut utiliser des musiques de films, ce que font la plupart d'entre nous, mais il existe maintenant, j'ai découvert un autre site, il faut réussir à trouver le moyen de s'inscrire, ça s'appelle extrememusique.com. extrême musique.
Oula,
voilà. Ouais, et c'est un, en fait, c'est utilisé par les producteurs, par les gens qui font des clips, des machins. C'est des musiques qui sont, une fois qu'on arrive à avoir l'inscription, auxquelles on accède à tout un catalogue avec des mots-clés, des tags dans tous les sens. Et après, si on l'utilise de façon commerciale, là, on paye. Mais donc, nous, en tant qu'MJ qui l'utilisons à notre table, par définition, c'est pas commercial. Donc, si on arrive à se trouver à s'inscrire, eh bien, c'est la fête.
Tu dis se trouver à s'inscrire, c'est si compliqué que ça ?
Il y a un formulaire, faut justifier de ton activité d'une façon ou d'une autre. Donc, soit tu te montes des adresses email, bidon, je ne sais quoi, bref, tu te débrouilles. je vous laisse vous débrouiller. Extrememusic.com.
MichaelMusicStudio@gmail.com.
Je crois que c'est géré par Sony, tu vois, pour vous situer le truc.
Ah oui, donc c'est
pour
c'est
des artistes qui créent. C'est des artistes qui créent des choses. Pour vous donner un exemple, en écoutant, je trouvais sur un bruitage qui me disait quelque chose. Je l'avais vu dans un documentaire sur le snowboard qui s'appelle The Art of Flight, avec les meilleurs riders du moment. Et ce son, il l'avait récupéré là-dessus. Et du coup, ils l'ont utilisé, donc ça a été diffusé, donc ça a été payé. Mais nous, non. On le garde, si vous le gardez sur votre
Du
votre
coup, maintenant, à chaque scénario de Michael, il y a une scène de board, de diving.
Non, mais l'avantage, tout ça pour dire que l'avantage, c'est qu'en utilisant ces musiques-là et pas des musiques de films, t'as moins de chances que le joueur percute les MJ qui utilisent toujours les mêmes, les Conan, ouais, les machins, ouais, les Dracula,
les
Dans
la mer pour les requins qui arrivent.
Voilà, tu vois, c'est les musiques où les joueurs, ils se mettent dans l'idée de, tout de suite, ils savent à quoi ça correspond. Mm. Et si tu leur mets une musique qui met dans l'ambiance, mais auquel ils n'ont pas de repère, je trouve que c'est plus immersif et ça les orientera pas.
Oui, c'est vrai que ça évite de donner une couleur, enfin de donner la couleur du film à la partie que tu es en train de faire, si c'est pas très exactement ça.
Ouais, exactement.
Alors, news suivante, vous avez aimé Patient 13, vous en voulez encore? Alors, si c'est le cas, eh bien, il y a un supplément gratuit pour celui-ci qui a été fait par des fans, un supplément qui s'appelle Abattoir, donc c'est en PDF, superbement bien mis en page comme l'original et tout, ils ont vraiment fait de façon à ce que ça colle à l'idée du bouquin précédent. Avec, il y a donc un nouveau bâtiment à l'asile psychiatrique.
Excellent.
Il y a de nouveaux patients, de nouvelles intrigues, des nouvelles blouses blanches, avec plein de choses à faire dedans. C'est bien écrit, c'est très agréable à lire, ça donne plein d'idées. Je l'ai trouvé vraiment très sympa.
Donc pour donner une seconde vie à Patient 13, grosso modo, c'est si vous n'avez pas envie de vous creuser le crâne, c'est la solution idéale.
Exactement.
Et gratuite.
Et gratuite. Donc je mettrai le lien sur le site.
Bonne idée.
Nous avons eu des nouvelles de la bibliothèque interdite qui était en fort mauvaise posture. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça ?
Alors, donc, comme vous aviez suivi, j'imagine, la bibliothèque interdite avait, c'est elle qui s'occupait de tout ce qui était les jeux de rôle de licence Games Workshop.
Oui.
Et les romans, surtout, c'est la première chose qu'ils ont faite. Malheureusement, la situation a fait que Games Workshop, au bout d'un moment, ils ont décidé de reprendre ça, tout ça, pour eux. Après tout, Bibliothèque Interdite a fait tout le boulot, mais maintenant, c'était plus simple, donc ils ont tout récupéré. Donc forcément, ça complique un peu les choses. Donc, ils ont vécu un certain temps. Et finalement, malheureusement, la Bibliothèque Interdite en est arrivée au point de fermer ses portes. Mais pour autant, les gens de Bibliothèque Interdite ont voulu relancer quelque chose, parce que le jeu de rôle, sont vraiment des passionnés, c'est vraiment leur truc. Et ils ont décidé donc de lancer une nouvelle société qui s'appelle Arcane Asylum Publishing.
Excuse-moi, tu loupes pas un épisode là, Eclipse ?
Eclipse, c'était un label à l'intérieur de Bibliothèque Interdite.
Je suis d'accord,
mais c'était du roman, c'était pas du jeu de rôle. Donc là, je rebondis sur le jeu de rôle.
Oui, mais ouais, d'accord.
Okay. Ouais, c'est pour ça. Mais non, j'ai pas raté un épisode. C'est juste que pour moi, c'est pas vraiment le sujet en fait dans l'absolu. Et donc, Bibliothèque Interdite qui accueillait Eclipse, le label, donc la société ayant fermé ses portes, ils ont décidé d'en ouvrir une autre pour faire vraiment du jeu de rôle. Et en l'occurrence, donc Arcane Asylum Publishing s'est monté. Et dans leur escarcel, il y a déjà un certain nombre de jeux qu'ils avaient déjà sur Bibliothèque Interdite qui étaient prêts mais qui n'étaient toujours pas sortis. Donc, entre autres choses, il y a House of the Blooded et il y a Blood and Honor et... qui reste encore dans du John Wick, hein. Ça c'est des licences qu'ils avaient signées qui sont intéressantes, et puis voilà, des jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il y a un autre grand jeu qui nous annonce, on ne sait pas ce que c'est, qui est un grand jeu secret, on verra ce que ça donnera, mais qui a priori est un très gros jeu, à voir.
Une grosse licence.
Voilà. On peut espérer, ils n'en ont pas reparlé, mais on peut espérer aussi que Dragon Age, ils finiront par le sortir aussi, parce qu'il
oui, Dragon était, Age, il était prévu, prêt.
Il était juste prêt aussi. Donc voilà, donc on va voir exactement. Pour revenir sur un de ces jeux, j'en prends un au hasard, c'est Houses of the Blooded, qui est donc un jeu de John Wick, qui est, en termes de règles, sa version du système de règles qui avait été lancé pour Spirits of the Century, qui s'appelle Fate. Donc il a fait une version à lui pour le jeu qu'il a développé, qui est un jeu qu'il déclarait être l'anti-D&D. Grosso modo, on joue des gens qui ont, dans une société qui prédate l'Atlantide, une société de nobles qui ont de grands pouvoirs avec différentes maisons. Ça reprend la recette des maisons, si vous voulez, avec chacune de ses particularités. Mm-hmm. Et cette race mystique dont John Wick a découvert les pillowbooks, d'anciens ouvrages que les gens s'échangeaient, des courriers. Grâce à ça, ça lui a permis de s'intéresser, de faire un travail historique pour découvrir quel était ce peuple très ancien. Donc un travail d'archéologue et d'historien.
D'accord.
Et ce jeu donc nous permet de jouer des nobles, pas des nobles majeurs, mais des nobles mineurs qui ont déjà des terres, une maison, des serviteurs. Et donc forcément, quand il y a besoin de faire la guerre, on s'arrange. Mais grosso modo, c'est un jeu de magouille politique, de romance, de vengeance. Mm-hmm. Et c'est un jeu vraiment, je dirais, tout sauf, voilà, comme il dit, tout sauf donjon. Donc c'est pas, on va faire du donjon, on va gagner des trésors et des objets. Non, on va... l'idée,
on
c'est
a
de
déjà
trahir.
Des trésors et des objets.
Voilà, l'idée c'est de trahir. On va trahir de toute façon, mais on le fait avec un certain panache et on le fait au final en montrant que c'est nous qui avons trahi. On le fait avec un certain panache.
Si j'ai bien compris, les sentiments sont très importants dans le.
C'est très important, exact. Chaque maison a un petit peu comme dans L5R, il y a les vertus du Bushido pour chacun des clans. C'est un peu la même idée. Il y a certaines valeurs qui sont importantes. Chaque maison est un petit peu typée. Mais ce qui est certain, c'est que l'amour, quoi, la romance en général, c'est quelque chose de très important. Et son corollaire, le corollaire de la passion, c'est la vengeance. Donc forcément, ça finira mal.
Ça me fait penser à Nobilis, en fait, des êtres très puissants, avec un côté très...
Oui, mais peut-être en version un peu plus lisible et jouable.
Mais en fait, moi, le pitch de départ tel que tu le faisais, finalement, ça me faisait un peu penser à ce qu'aurait dû être un jeu comme Agone, c'est-à-dire un jeu où on joue des gens plutôt puissants, et qui ont déjà leur maison, leur statut, leur lignée éventuellement, et qui après s'investissent dans des intrigues qui sont à l'échelle d'un pays ou de choses comme ça.
Là vraiment c'est le jeu d'intrigue par excellence, donc c'est un jeu d'enflure, qui vont s'enfler les uns les autres, et qui vont pas hésiter, c'est pas un jeu où le but du jeu c'est d'être le plus fort à l'épée, on s'en fiche quoi, clairement c'est pas le but du jeu. Et c'est aussi vraiment y aller dans le panache dans certaines choses, de pas hésiter à faire des choses un peu atypiques. Et c'est un jeu narrativiste, c'est ça. Voilà le mot qui fâche généralement la plupart
perdu,
des
là, hein.
Voilà les mots qui fâchent la plupart des rôlistes. Donc c'est un jeu où le joueur a un pouvoir narratif.
Ici, le mot narrativiste est plutôt le bienvenu.
Oui, mais bon, généralement, c'est plutôt une insulte qu'on utilise pour un certain nombre de gens. Donc, il paraît.
Moi, j'ai été très surpris d'apprendre ça.
Oui, non, mais quoi, moi, j'ai pas d'a priori sur ça. Narrativiste, bourrin, tout ça. Vous prenez sous moi, je prends tout. Donc voilà, donc c'est un des jeux parmi lesquels, un des jeux qu'ils ont annoncé. Moi, c'est un jeu que j'attendais avec impatience. Je l'avais lu évidemment en anglais. Après, je l'ai jamais fait jouer et j'ai jamais participé en tant que joueur. Donc, si ça se trouve, ça marche pas du tout en vrai, je ne sais pas. Je n'attends qu'une chose, c'est de le tester.
D'accord, ok.
Quand j'aurai le temps.
À propos de jeux attendus et qui arrivent enfin et tout, il y a la fameuse version collector de Deadlands Reloaded.
Ah ouais, alors 150€, ça doit déchirer ce que t'as eu.
Alors en fait, c'est un petit peu pourri.
Ah bon?
Car malheureusement, le bouquin lui-même est très bien fait. Il y a pas de problème. Il est bien construit, bien fabriqué.
Donc si
côté imprimerie, ça va.
Donc si je comprends bien, t'en as pas après le bouquin ou le jeu de rôle, t'en as après la version collector.
Après la version collector.
On lui avait dit qu'il y avait une pute mexicaine dans le lot et non.
Non, mais il disait...
T'as un coupon de réduction si tu vas au Mexique, c'est ça?
Mais sérieusement, il n'y avait pas de l'alcool dans le lot ou je sais pas quoi?
Alors,
Je me trompe.
Ce qui était annoncé initialement, c'était dans une boîte à whisky, enfin dans une caisse à whisky, pour être précis. Ah. Il y avait normalement le jeu avec donc plein de goodies, des trucs. Et moi, je m'attendais à quelque chose un petit peu comme ce qui s'est fait pour la version collector des Montagnes Hallucinées. Mmh. Et le fait que le prix ne soit pas aussi cher que la version justement des Montagnes Hallucinées aurait dû me mettre la puce à l'oreille.
C'est un pot de phoque, non
Non, les Montagnes Hallucinées, en fait, c'était une caisse en bois type... caisse de transport,
caisse de baleinier, enfin ouais, qu'on trouverait dans la soute d'un baleinier faisant les mers du sud.
Ouais, voilà, où le numéro de série a été, bombé à la peinture.
Oui, d'accord, oui.
Voilà. Et donc là, en fait, on se retrouve avec une boîte noire avec un imprimé argenté dessus qui rend plutôt pas mal au premier abord. En revanche, dès qu'on l'ouvre, c'est un petit peu la catastrophe. Les
charnières,
le fond de la boîte et le couvercle sont mal ajustés. Les charnières utilisées ainsi que les fermoirs, c'est vraiment des trucs qui sont faits pour faire des cadeaux de fête des pères, tu vois, des trucs comme ça. C'est fait pour fermer deux boîtes de camembert avec des.
Elle est quand même pas en balsa, la caisse.
Non, c'est pas du balsa, c'est plutôt du contreplaqué peint.
D'accord, ok.
Donc, c'est mal foutu parce que une fois que quand le bouquin est dans la boîte, tu peux pas sortir le bouquin sans vider la boîte, tu sais, sans la retourner.
Ah,
parce que t'as même
si
pas
les charnières sont pas solides, en plus tu risques de les péter à ce moment-là.
Ouais, voilà.
Ah, c'est ça, d'accord.
Mais moi, de toute façon, il y en a une des deux qui a lâché dans le transport. Donc effectivement, on peut se dire qu'à la poste c'est des bourrins, mais d'un autre côté, quand tu vois la faiblesse du métal utilisé,
tu veux dire que ça n'a pas été livré par une pute mexicaine? Non, attends, Cyril, c'est pas normal.
Je suis choqué.
Tu me rassures.
Par l'absence de but. Donc voilà, pour moi c'est une très grosse déception. Donc il y a des jetons de poker avec, mais qui sont des trucs tout cons que tu peux trouver au tout à 10 balles de Barbès. Sinon il y a deux jeux de cartes qui sont de bonne qualité sans plus. Il y a des dés aux couleurs de Deadlands quand même.
Est-ce qu'il y a des avantages techniques pour ceux qui ont acheté, genre t'as plus de points pour faire des trucs.
T'as
ou...
plus de points de crédulité quand tu achètes des collectors.
Pour le prochain achat, tu veux dire.
Ouais, voilà. Donc voilà, je suis très déçu et je pense que je vais un petit peu freiner sur les collectors.
De façon générale, c'est vrai qu'on s'attend toujours à quelque chose d'exceptionnel, quel que soit l'éditeur après.
Ouais, ouais.
On est quand même régulièrement déçu. Moi, je me rappelle un certain nombre de collecteurs que j'ai achetés par le passé où je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça.
Bah, je sais pas. Tu vois, par exemple, le Nephilim 3, le coffret de Nephilim 3.
Oui.
C'est un truc tout con, parce que c'est du carton toilé, des trucs. Mais au final, ça rend beaucoup mieux que cette boîte-là, quoi.
D'accord.
Ouais.
Bon, voilà, après, bon. Je pense que peut-être que Sans Détour a mis la barre très haut sur ce qu'ils ont fait pour par-delà les Montagnes Hallucinées.
Ouais.
Et que du coup, forcément, il faut avoir des accessoires, des machins, des trucs, des bidules. Ou même d'ailleurs Fantasy Flight, quand ils ont sorti, que ce soit Deathwatch ou d'autres.
Ouais.
Rogue Trader, ils avaient mis aussi la barre haut sur le type d'accessoires, des fermoirs en métal.
On est en 2012, quoi. On peut pas faire une boîte collector qui vous pète pas la gueule.
Ah oui, d'accord. On a des exigences de qualité. L'apocalypse, tout ça, c'est ça.
Non, mais on a des exigences de qualité, c'est vrai, qui sont avec des boîtes, effectivement, comme Black Library ou d'autres. La barre est haute et on s'attend à quelque chose d'un peu plus sympa que ça, quoi.
Qu'un truc qui a été peint par une école de primaire.
Je pense, quoi, l'ayant entre les mains, tu me l'as passé pour voir. C'est vrai que la qualité du bois et la qualité des fermoirs et des charnières, c'est tout le problème. À la limite, l'idée, elle est bonne, mais c'est juste la qualité du matériau, la matière première qui est juste pas adaptée. C'est dommage. Après, j'imagine bien qu'ils peuvent en tirer les leçons pour la prochaine fois, éviter de faire
ils ont dû changer le texte un peu dans le background pour expliquer la disparition des bois rares et tout dans le monde de Deadlands. Suite, vous savez, au déluge sur la Californie et tout, ben, c'était leur là qu'il y avait tous les bois rares. Et,
Le reconning qui a fait disparaître le bois rare, c'est pas mal. Bonne idée.
Et que le fabricant s'est fait refourguer par un...
Par les docteurs ambulants là, dans leur carriole, c'est lui qui a casé le bois en fait. C'était du bois de contrebande, de mauvaise qualité, d'accord. Du bois pourri qu'il avait laissé dormir dans un entrepôt pendant longtemps. Ok.
Bon, je pense que ce n'est pas la peine de s'acharner plus sur le cadavre. Passons à la news suivante. Ah, enfin une bonne nouvelle. Bloodlust Metal est là.
Ouais, moi je l'ai pas vu, j'y crois pas.
Hein. J'ai vu les photos.
Ah mais ouais, mais les photos c'est des montages, tout le monde le dit, de toute façon ce sont des photos.
Pixar, it didn't happen.
Ouais, non mais c'est clair, attends, non mais c'est un pipeau monstrueux. Fait combien d'années que ça doit sortir? Non.
Je sais plus de combien ils ont de retard, peut-être 2 ans.
Est-ce que quelqu'un l'a vu en magasin? Ça pourrait être...
Mais il sera là ce week-end là qui vient, ils en auront des exemplaires à la Comic-Con.
Ah ouais? Bon, ouais. Tu nous envoies les photos ou on te voit dessus pour prouver que c'est vrai. D'accord? Ok. J'attends ton email.
J'essaierai de m'en procurer.
Mais j'y vais ce week-end à Comic-Con. Peut-être que je le verrai avant toi, en fait.
Voilà,
c'est possible.
Votre grand jeu, ça va être de prendre une photo de Bloodlust Metal avec vous et de la poster derrière. Sur Google Plus, sur ce que vous voulez, ou sur, sur le site du podcast, tout simplement.
Ça marche.
Je veux voir la photo. Et là, je voudrais bien commencer à croire. Par contre, je vais analyser la photo de très près pour être sûr que c'est vraiment vous.
Ce n'est pas un photomontage.
Voilà, exactement. Parce que je suis quand même. Voilà, on ne la fait pas.
Alors, ensuite, on parlait tout à l'heure des Kickstarter et autres. Il y a donc Ululage.
Ululéage, c'est ça? Comment tu dis Ululé, c'est ça?
Ouais. Ululage, donc, d'un jeu nommé Deus l'Ascension. Donc, ça a l'air d'être encore une histoire d'apocalypse sur Terre avec des gros démons qui ont des dents partout.
Je crois que Michael a pensé à la même chose que moi en même temps en écoutant le titre. Encore un titre pourri, on n'a pas envie de voir le jeu.
C'est ça.
Et en fait, j'ai vu les images qui ont l'air d'être des montages de photos, de trucs. Enfin, j'ai trouvé que ça faisait très adolescent parce qu'il y a beaucoup de flammes et de têtes de mort et des trucs comme ça.
Ça va être trop bien.
Si ça se trouve, ce sera super bien et on est vraiment des grosses langues de pute. Mais enfin bref, on verra bien.
Ça c'est sûr, on est des grosses langues de pute.
Alors, sinon, il y a le premier scénario de Hartung Tulu dont j'avais parlé dans un numéro précédent.
Hartung
Tulu, donc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale où on peut incarner tout un tas de personnages de cette époque dans des scénarios qui s'étalent, si je me souviens bien, de 1938 à 1946.
C'est précis.
Qui ont donc lieu un peu partout dans le monde et en gros les personnages sont à la poursuite d'artefacts indicibles détenus par des nazis de Thulé, enfin une histoire un peu comme
avec
ça.
Avec un petit côté Indiana Jones ou
pas? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu parti pour être comme ça, enfin c'est ce que j'espère.
Pulp,
moi.
Pulp quoi, un côté pulp.
Un peu pulp, ouais.
Ah, bah,
moi ça m'intéresse bien, je sais pas. Donc le premier scénario est à 9,99$, bon 10 quoi, mais il fait 44 pages, donc je trouve que c'est un poil cher pour un PDF.
C'est peut-être un prix d'appel pour lancer, voir si ça marche vraiment, et après derrière ils réduiront peut-être les prix, on peut espérer.
Ouais, je suis
un peu oui sûr. Ouais. Que 9, c'est, si je ne m'abuse, c'est pas le prix qu'ils vendaient Pathfinder en anglais, le livre de base, 9,99$ pour le PDF, je crois que c'est.
Ah ouais, c'est vrai.
Quand ils ont lancé, je crois que c'était ce prix-là, un truc dans le genre. Je sais plus si c'était 9,99 ou 19,99. Je pense que c'était 9,99.
Ah bah d'ailleurs, le Hartung Tulu est fait par Pezo.
Mais oui, c'est pour ça que je. Ah, il est fait directement par eux.
Il est en vente sur leur site. Ouais.
Ouais, je sais pas si j'ai pas regardé. Ouais, faudrait vérifier. Ouais. Mais d'ailleurs, si on parle de Cthulhu,
je
peux peut-être profiter de l'occasion.
Ouais, je t'en
prie. Parce qu'on a cité quand même plusieurs fois Par-delà les montagnes hallucinées. Pour tous les gens qui maîtrisent Par-delà les montagnes hallucinées ou qui l'ont acheté et qui un jour pensent qu'ils le maîtriseront. Ne rêvez pas trop, si vous ne l'avez pas encore fait alors que ça fait un an que c'est sorti, c'est que vous ne le ferez jamais. Il y a un accessoire
bon,
très...
Bon, c'est râpé.
Voilà, il y a un accessoire super utile que j'ai découvert, ou plus exactement qu'on a découvert pour moi, c'est un certain Laurent Klotzer, qui est auteur de science-fiction, de fantasy, qui sait tout faire, qui a pointé le doigt sur ça, parce qu'il a maîtrisé cette campagne. un site qui s'appelle CthulhuLives.org, donc en un seul mot, hein, vous vous débrouillez, qui fait des accessoires en fait audio, des PDF pour Cthulhu. Et plus précisément, ils ont fait un CD, bon, en MP3, vous pouvez l'acheter en CD ou en MP3, d'une émission de radio où le docteur Dyer, qui a fait la première expédition et qu'on est revenu vivant, nous parle de l'expédition, qu'est-ce qui s'est passé, donc qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Donc grosso modo, ça reprend la nouvelle de de Mountain of Madness, de la nouvelle de Lovecraft, mais fait en émission de radio de l'époque, avec la qualité du son de l'époque, c'est juste génial.
Les voix, les intonations.
Voilà, et il y a des pubs à l'intérieur. Et donc moi, c'est quelque chose que, évidemment, je réutilise parce que je la maîtrise, cette campagne. Et c'est vraiment un accessoire qui est super utile.
Et tu diffuses, en fait, des extraits de journaux à tes joueurs pendant la partie.
Avant le début de la campagne, je leur ai diffusé la partie légale, c'est-à-dire les diffusions de radio de l'époque quand ils ont fait l'expédition. Et bientôt, d'ici quelques temps, quand ils seront suffisamment avancés, ils auront le droit à la vraie version, quand Dyer revient et explique ce qui s'est véritablement passé, parce qu'ils ont communiqué.
Il est en train de tout spoiler.
Ouais, non, ça va, je spoil pas trop, vous inquiétez pas.
Mais bien entendu, tout cela est en anglais.
Tout ça est en anglais et coûte $19.50 sur leur site. D'accord. Mais il y a encore autre chose, toujours en anglais, qu'ils font. Il faut un CD de props, donc d'aides de jeu, en PDF que vous pouvez imprimer. Ce sont des PDF éditables, vous pouvez vous créer votre carte de bibliothèque d'Arkham, vous pouvez vous créer votre permis de conduire, vous pouvez faire des télégrammes. C'est un CD de props super. Il y a des polices de caractère, il y a vraiment beaucoup de choses. D'accord. Je crois qu'ils en font deux d'ailleurs de CD de props, moi j'en ai pris un seul. Mais rien qu'avec celui-ci, on fait. Donc il vous explique, et vous l'imprimez, mais il vous explique aussi comment faire votre passeport après derrière.
D'accord.
Donc t'as tout pour le faire, après il faut l'imprimer et tu le fais, c'est juste génial. Quoi, pour les gens qui ont envie de se faire suer après par leur passeport, ou le MJ qui veut tout faire pour ses joueurs. Ouais. Le bon pigeon quand même sur ce
coup-là. Et ce CD-là, il est spécifiquement orienté également vers la campagne
Non, il est orienté Cthulhu. Il y a plusieurs époques. Vous pouvez l'utiliser dans les deux cas. C'est vraiment du beau travail. Vous avez le droit d'ignorer ça aussi. Hein, mais voilà, je me suis dit qu'il y a peut-être des gens que ça pourrait intéresser. Donc voilà, toujours CthulhuLives.org. C'est là-bas que ça se passe. Voilà.
Ok. Alors ensuite, le prochain jeu dans l'univers de Warhammer 40 000 s'appellera Only War, donc il n'y a que la guerre. Et la version bêta est disponible en PDF, elle fait 256 pages, et ils la vendent. La vendent $20, en sachant quand même que l'achat de cette version permet d'avoir une réduction d'autant sur la version définitive. Et de plus, si je me souviens bien ce que j'ai lu à ce moment-là, cette version permet également de remonter des infos aux créateurs, des bugs, des machins, des idées, etc.
T'as dit le prochain jeu dans l'univers de Warhammer 40 000, mais t'as pas précisé si c'était un jeu de rôle, tu vois ?
Bah, jeu de rôle, évidemment.
Ah, bah oui, non, mais il faut le préciser quand même.
Ouais, donc c'est pas un jeu de cartes.
Donc c'est Fantasy Flight qui le fait, donc.
J'en sais rien.
Parce que c'est eux qui ont la licence jusqu'à preuve du contraire. Ou est-ce que c'est directement ? Ça serait étonnant.
Ben alors en fait, là je l'ai vu, c'est en vente sur le Drive-Thru, là, tu sais.
Drive-Thru RPG.
Ouais.
À la voix, j'ai senti peut-être que tu étais un petit peu gêné par le fait qu'ils vendent une bêta.
Oui,
après
oui,
tout,
moi ça me gêne un petit peu.
Tu donnes bien de l'argent pour des ululululu.
Ululé.
Et tu le fais à l'avance.
Ouais, mais tu le fais à l'avance, mais t'obtiens pas une version bêta.
Ouais, mais t'imagines, t'as le droit à une réduction sur la version finale. C'est Fantasy Flight, ils sont là pour faire de l'argent. Ce sont pas des gens qui ne sont pas éditeurs et qui font un ululé parce que ils savent pas s'ils auront suffisamment de sous pour le faire. C'est pas pareil, c'est un éditeur, donc il se dit, il y a pas de petit profit, ma bonne dame. Et puis comme ça, on voit si ça marche bien, et comme ça nous permet de savoir si on l'imprime après derrière ou pas. Donc on évite de faire un print run super élevé et qu'on perd vachement d'argent. Bêta ne marche pas, parce que les gens qui vont avoir une réduction en ayant eu la bêta, ils vont se manifester pour l'avoir, cette réduction.
Ah oui,
parce que tu vas voir qu'ils vont faire une précommande. Quoi. Je pense que le modèle économique est vraiment en train de changer sur vraiment plein de choses.
Ouais,
Je pense que les Kickstarter, Kickstarter Ulule, que ce soit dans l'édition, donc plutôt Ulule, ou que ce soit dans le produit Kickstarter, quand même on commence de plus en plus à avoir des éditeurs qui sont des éditeurs qui sont des vrais éditeurs, qui produisent des bouquins, qui se mettent aussi à sonder pour savoir est-ce que je vais le faire ce truc-là, ouais. On va voir si ça marche. Et ils lèvent
plus,
des fonds.
Ça plus le support PDF, enfin le support e-pub et autres supports électroniques. C'est vrai que ça fait changer pas mal le modèle économique de l'édition de jeux de rôle.
Je pense que le gouvernement devrait donner de l'argent à tout le monde pour créer des contenus et puis ensuite tout le contenu serait gratuit.
D'accord.
Voilà. tu veux lancer une nouvelle uchronie, tu étais dans un délire de monde paradisiaque où il n'y a pas de guerre, tout ça.
Ah mais de toute façon ça risque Cyril... pas d'arriver, je veux pas me lancer dans la politique mais
Cyril veut être Miss Univers d'après ce qu'il nous dit.
Ils ont enfin le nouveau gouvernement veut quand même taxer les écrans d'ordinateur donc dans le genre
Non mais c'est pour nous protéger parce que tu comprends, ça émet des radiations, donc s'ils nous taxent peut-être qu'ils vont réduire les radiations, au contraire ça nous poussera à ne pas utiliser des écrans, donc de ne pas être irradié. Donc je pense qu'ils font ça pour notre bien, tu penses bien.
C'est pour éviter de voir des scènes à la Angry German Kid là. Vous savez la vidéo du gars qui s'énerve face à son écran.
Oui, qui tape sur sa
supprimons
machine.
Supprimons les écrans comme ça il n'y aura plus de... Bref.
Alors, autre jeu qui est en cours de création, c'est un nouveau jeu de Ben Lehman, qui est donc...
Ne pas confondre avec Ben Laden.
Putain. Pois, 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 pois.
Je te rappelle qu'il est mort, donc c'est peut-être son jeu posthume. Intéressant. C'est quoi le sujet ?
Donc, Ben Lehman, qui est l'auteur de Polaris.
C'est frère de
donc,
Serge.
Donc, le jeu américain... Oh, putain.
Donc, pas le Polaris de Philippe Tessier, un autre Polaris.
Au secours.
C'est vrai, c'est une information pertinente que j'apporte.
Oui, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il y en a deux qui ont fait un jeu qui s'appelle Polaris. Donc, Ben Emad, c'est un créateur indépendant donc, qui a fait surtout des jeux narrativistes, tout ça, tout ça. Et donc là, son prochain jeu s'appelle Odd Guys Making Out. Et donc, alors attendez.
Le titre déjà fait peur.
Ouais, attendez, accrochez-vous sur le thème. Donc, c'est un jeu de rôle de type yaoi. Tu sais, c'est comme les mangas.
Les mangas yaoi. Les mangas homosexuels.
Voilà, c'est un peu comme les mangas homosexuels.
D'accord.
Donc, ça traite des amours interdits entre un noble et son pupille pendant la guerre civile espagnole.
Et le gars, il va vendre grave. Hein. Avec ça, je veux dire, avec un pitch pareil, je pense que le mec, il va devenir multimillionnaire. Hein. C'est au minimum. Hein.
C'est peut-être pas de vendre, c'est peut-être de. Enfin,
il va peut-être finir en prison. Il est dit d'où ? Parce qu'on sait jamais dans un état. Tu sais, s'il est dit d'un état un peu limite,
un
si
peu
ça
mormon.
Sait. Voilà. Là, si ça sert, à mon avis, il va finir en taule, le mec. Hein. Il ne pourra même pas toucher ses multimillions dont il est sûr de toucher. Sûr
je trouve le pitch assez rigolo, quoi.
Ouais, mais la question, c'est comment t'as trouvé ce type de news, quand même hein. Moi, c'est la question.
En allant voir sur le site de Ben Lehman.
Ah, oui, d'accord.
Car il y a une semaine ou deux, en fait. C'était pour l'anniversaire de son site, il me semble. Il avait fait un truc où chaque jour, il y avait l'un de ses jeux qui était gratuit en PDF. Et donc, tu pouvais aller sur son site et le downloader. Voilà.
Ça et le fait qu'il est abonné au yaoi.
Non, j'allais pas en aller jusque-là. Non, non, Cyril, c'est bon. Là, sauve-le un petit peu, épargne-le.
Alors, donc un autre jeu de John Wick dont nous avons parlé tout à l'heure, un jeu qui s'appelle Cold and Dark, qui est un univers de science-fiction, donc effrayant et violent, où les personnages font face à des horreurs inconnues. Donc, ce sont des les personnages vivent un peu en marge de la société. C'est des ingénieurs ou des corsaires qui vivent dans l'espace profond. Oui, pardon.
Non, mais j'aime bien la façon dont les gens qui vivent en marge de la société, c'est des ingénieurs. Ça fait vraiment le profil
non, non,
du
mais, geek. Non, non, mais pardon, mais oui, je me suis mal exprimé. Non, mais qui sont pas. Qui sont pas au centre de la galaxie, là où il y a toutes les grosses
d'accord,
planètes.
Ah, d'accord, oui, physiquement, d'accord, géographiquement.
Géographiquement, voilà. Mmh. Ils sont aux frontières de ce qui est connu et ils vont affronter des horreurs avec des dents et des trucs qui.
Donc des pionniers qui vont affronter des horreurs stellaires.
En quelque sorte.
D'accord.
Voilà.
Okay.
C'est un peu ça le pitch du jeu. Donc ça peut être intéressant et j'attends de voir ce que ça va donner.
J'ai déjà l'idée d'un scénario.
Autre news aussi, mais qui date un petit peu, parce que ça date du mois de mai, mais je ne suis pas sûr d'en avoir parlé les fois d'avant. Donc, comme vous le savez, c'est Red Brick qui a la licence de Fading Sun.
Oui.
Et la troisième édition, je crois, était en cours de... Je crois que c'est le numéro de l'édition, je crois que c'était la troisième.
Oui, c'est ça, la troisième.
Ouais, c'est ça, qui était en cours de création.
Qui avait été signé par 7ème Cercle, si je ne m'abuse, pour faire la VF.
Tout à fait. Et donc, sur lequel écrivait un mec qui s'appelle Angus McNichol. Et il y a un mois ou deux, il a dit sur son site qu'après 4 ans de développement et 2 fois 300 pages de bouquins rendus à l'éditeur, il a reçu un mail disant « Bonjour, t'es viré, salut. PS, au fait, tu n'as plus accès au forum de développement.
» Sympa comme ambiance. Il s'est pris une brique rouge dans la gueule, en fait. C'est ça,
en quelque sorte.
Ils sont fâchés. Comment c'est arrivé? C'est...
Et en fait, moi je sais pas trop. Je ne suis pas dans le secret des lieux, mais toujours est-il que la seule chose que je vois, c'est que a priori, ça va reculer de beaucoup l'édition en français.
Ouais. Bah oui, forcément. Après, on sait pas. Hein, peut-être que ça veut peut-être dire si les bouquins sont finis et que les droits qu'il avait signés sur son contrat font que. Je sais pas quels sont les droits. Ils sont australiens ou néo-zélandais, Red Brick, je sais plus, l'un ou l'autre. Bref. Je sais pas quel est l'état des droits d'auteur là-bas, mais si c'est à l'anglo-saxonne, à l'américaine, ils ont dû mettre des clauses où ils sont protégés, ils le sortiront peut-être quand même. Et le mec, il peut leur axer ses yeux pour pleurer, hein, c'est fort possible.
Oui, c'est.
Parce qu'en France, ça pourrait pas arriver, ouais, par exemple. Parce que l'auteur, il est ultra protégé, il y aurait aucune chance.
J'ai pas compris, il était payé au mois ou. Parce que dans ces circonstances, on peut virer quelqu'un, mais sinon.
Non, le principe, c'est qu'il disait qu'il n'était pas dans le secret des dieux. Il ne connaît pas le contrat de travail de Angus
McNichol.
Et je pense que personne ne le saura d'ailleurs, à moins d'aller lui poser directement la question. Mm. J'imagine.
Mais voilà, donc toujours est-il que ce mec était sur le développement de ce jeu. Alors, d'après ce que j'ai compris, il n'était pas salarié de la boîte et il faisait ça
en indépendant,
en tâche de fond, tout ça, machin.
D'accord.
Et ils l'ont lourdé comme une grosse merde. Au bout de 4 ans de développement, alors c'est ça qui m'étonne, parce que si le mec il fait du mauvais boulot, c'est...
Ils ont peut-être décidé que la 3ème édition, ils n'allaient pas la publier, ça leur coûtait trop cher. Peut-être qu'à côté, les jeux qu'ils publient ne marchent pas bien, et économiquement parlant, ce n'est pas viable pour eux, mais c'est possible.
Je comprends tout. Et c'était quoi sa rémunération? C'était par rapport au produit fini, c'est ça?
Je pense, ouais.
Alors là, vous êtes dans le domaine de la théorie absolue, dont on n'aura jamais la réponse. Ça ne sert à rien de tergiverser là-dessus.
Je ne sais pas si on l'aura jamais, mais en tout cas, là, je ne l'ai pas.
Voilà. Non, mais si ça se trouve, on reste dans le domaine de l'hypothèse. Hein. Peut-être que, en effet, Red Brick est pas en super santé financière, il se voit pas d'imprimer le truc, mais ça veut peut-être pas dire que 7ème Cercle fera pas quand même. Après tout, ils avaient annoncé qu'ils avaient déjà bossé sur la traduction et que ça avait avancé.
Ouais.
On verra.
Ouais.
Je pense qu'on en saura plus grâce à 7ème Cercle quand ils font les annonces.
C'est ça.
Je pense que c'est la seule réponse qu'on aura.
Mais bon, c'est chiant parce que c'est un jeu qui est vachement sympa, quoi. Et moi, ça me plaît. J'avais bien envie de le lire.
C'est un jeu dont tous les gens qui se sont penchés dessus, tous ceux qui l'ont lu, ont tous été unanimes sur la qualité du jeu. Je crois que tous les fans de Dune quelque part s'y sont retrouvés. Tous les fans de voilà. En plus, Fading Sun à l'origine, ça a été créé par des anciens de White Wolf qui étaient partis. Je crois que c'était Bill Bridges qui était le développeur de Werewolf, et le deuxième
Greenberg,
Andrew Greenberg qui a été longtemps développeur de Vampyr, pas le créateur mais le développeur. Uh-huh. Et ils s'étaient mis ensemble et ils avaient fait Holistic Design, et c'était un des premiers jeux qu'ils ont sorti. Après, ils ont sorti aussi d'autres choses qui étaient moins réussies, mais c'est vrai que ça avait eu tout de suite un succès au moins d'estime. Et tous les gens en France, en tout cas moi, tous les gens que je connais qui me parlent de Fading Sun et qui ont touché sont tous tombés dedans. Donc après voilà.
J'avais lu la version de Multisim à l'époque,
oui.
qui était vachement sympa. Ouais. C'était vraiment bien. Bon, alors et pour clore ces news, d'abord la blague du jour, le nouveau Kickstarter, c'est la nouvelle édition de World of Cinnabar.
C'est quoi World of Cinnabar?
Ah, alors c'était un très mauvais jeu.
D'accord.
Donc c'est mon petit camarade Antoine Bugli qui avait fait la fiche pour le Grog, et donc ce jeu est plein de trucs complètement farfelus où tu as des... Il y a des ours qui tirent des lasers par les yeux. Il y a des.
Mais il est génial ce jeu!
Il y a des ratons laveurs.
C'est seulement maintenant que t'en parles à Cyril, t'es vraiment un salaud.
Il y a des ratons laveurs de l'espace non violents avec des lance-roquettes sur les images du jeu. Les graphismes sont affreux et tout. Enfin bref, c'est un
tout
vrai.
Tout est à l'avenant, quoi.
Voilà, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, il y a une nouvelle édition. Et alors d'après certains, l'auteur aurait beaucoup changé et serait plus narrativo tout ça.
Tu veux dire qu'il essaie de faire dans le marketing et il essaie de surfer sur des vagues de l'indépendant pour que ça marche.
Ouais, peut-être.
Même. J'ai grandi, maintenant je suis adulte et je fais du narrativisme.
Ouais, il a passé sa période ours avec des yeux laser. Maintenant, c'est quoi sa nouvelle période? C'est des éléphants qui lancent des dagues ou
Je ne sais pas.
Des éléphants en tutu qui ont des rayons laser par leurs doigts. Au minimum.
Ah ouf, j'ai eu un peu.
Ouais,
peur.
Non. J'essaie de me tenir, s'il te plaît. J'essaie de maintenir une certaine. Une prestance minimum. Mais vraiment minimum.
Voilà.
Et alors, donc, la question, c'est est-ce que toi, tu vas contribuer à ce Kickstarter?
Non, évidemment pas.
Je crois qu'il a signé pour 65 dollars pour la version ultra collector où son nom apparaît dedans.
Et
il a le droit à un ours qui tire des lasers par les yeux qui porte son nom. Je crois.
Et vivant l'ours.
Bon courage. Ça va être funky à la maison.
Je pense que mon chat va pas être d'accord. Bon, eh bien, c'est terminé pour ces news. Dis-moi, Cyril.
Moi, Cyril.
Toi qui connais bien le jeu de rôle et tout ça. T'aurais un truc à me conseiller pour faire des scénarios un petit peu différents?
Oui, c'est un jeu de science-fiction qui s'appelle Torrent. Ah non, tu veux dire par rapport au bouquin? Non, d'accord.
Oui, par rapport au jeu de rôle que tu étais censé...
Ah oui, d'accord. Mais en fait, il y a un jeu de rôle qui s'appelle L'Appel de Cthulhu.
L'Appel de Cthulhu, tu veux dire?
Oui, L'Appel de Cthulhu.
Quoi.
Oui. Qui s'enorgueillit d'une gamme richissime de suppléments.
Célèbres les uns que les autres.
Pas tous plus célèbres les uns que les autres, justement. Certains des suppléments qui présentent de nouveaux contextes historiques sont bien connus, au minimum de réputation, des anciens rôlistes, les années folles, Cthulhu by Gaslight, Cthulhu 90, plus récemment Delta Green, Countdown, enfin... toute une gamme de suppléments qui sont attachés à décrire des périodes diverses et variées de l'existence pimentée de mythes cthulhoïdes.
Mm-hmm.
Et apparemment, je dis apparemment parce que je m'en souviens pas, j'ai jamais été grand consommateur de suppléments de Cthulhu. Pourtant, j'ai commencé à faire jouer moi à la campagne des masques, mais ça n'a pas duré plus de 2 chapitres et demi ou quelque chose comme ça sur 5 ou 6. C'était une belle campagne, ça, si les masques de Nyarlathotep. Mm-hmm. Donc, je ne connaissais pas le supplément Étrange Époque qui était sorti à l'époque apparemment chez Jeux des Cartes.
J'ai pas connu, je savais pas qu'il était sorti chez Jeux des Cartes.
Je ne savais pas non plus. En fait, je suis allé sur le site tentacule.net.
Oui, bien connu.
Qui est vraiment, à chaque fois que j'y vais, je suis impressionné par,
par le boulot.
Il est vraiment super, ce site. Et pour avoir un peu de contexte, j'ai même pas besoin de faire une critique d'Étrange Époque 1 et 2 parce que ça vaudra jamais ce que j'ai lu la critique très détaillée que j'ai pu lire là-dessus. Enfin, néanmoins, je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc, les éditions Sans Détour viennent de sortir pour leur version d'Appel de Cthulhu, donc le supplément Étrange Époque 1 et 2, donc qui allie à la fois le premier supplément paru il y a longtemps chez Jeux des Cartes,
oui.
et d'autres scénarios, puisque c'est un recueil de scénarios.
En quoi consiste cet ouvrage?
Oui, alors quel est le principe un petit peu d'Étrange Époque? C'est de faire voyager les joueurs loin des années 30 qui forment le quotidien de tout bon investigateur.
Les sentiers battus et rebattus d'Arkham et ses environs.
Voilà, exactement. Loin d'Innsmouth, que trouve-t-on? Eh bien, toutes sortes d'époques. Ça m'a même un petit peu fait peur. Ça fait un peu penser à un portfolio où il faut avoir un peu de toute époque. Mais en fait, on sent que ça va être inégal. Selon les points forts et les spécialités de l'éditeur, mm-hmm. ou des auteurs. C'est un peu le cas ici. Hein. Ça va être des scénarios très inégaux en fonction, je pense, des auteurs.
Des avidités.
On se balade, on va en Chine au 7e siècle, en Grèce antique, dans les temps préhistoriques. À l'époque.
Dans les temps préhistoriques.
Ah bah, j'en parle un petit peu parce que c'est un de ceux que j'ai le plus apprécié. Le scénario s'appelle Maudite soit la ville, et d'abord, je me suis dit, mais en fait, En fait, il faudrait avoir Wurm, le jeu de rôle, oui. et puis ce scénario, et puis ensuite on peut commencer à faire des choses sympas, parce que forcément c'est peut-être moins l'immersion dans la préhistoire qu'avec un bouquin solide comme
oui,
mais pour tout,
vraiment centré sur la vie
toutes les époques, ça va être ça quoi. Il y a un scénario qui se passe au Japon féodal avant l'époque de Tenga, j'ai vérifié.
Oui.
Mais bon bah.
À quelle époque exactement?
Je crois que c'est le 15e siècle. Je pourrais vérifier, mais enfin.
Je vais vérifier pour l'instant, ça m'intéresse.
Enfin, c'est...
Ça ne veut pas dire que ça m'intéresse pas le reste. Hein.
Oui, et enfin, bref, voilà. Du coup, il m'a piqué le bouquin et j'étais en train de le lire en même temps, le salaud. Enfin, bref, c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller quand même. Donc, on se dit, bah, à chaque fois, c'est pas mal d'avoir un peu de littérature pour accompagner.
Oui.
Parce que, forcément, c'est très court, quoi, pour présenter. En fait, c'est quand même des scénarios, c'est pas des campagnes, c'est des scénarios.
Oui.
Donc, immerger les joueurs là-dedans comme ça, c'est difficile. Alors, ils ont visiblement pris le parti de faciliter les choses pour les joueurs, peut-être en se destinant à des joueurs débutants, sachant que. Enfin, je dis ça, je fais des hypothèses, mais parce qu'il y a 6 personnages prétirés à chaque fois.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas mal parce que. On n'a pas à se poser la question, mais alors quel genre d'investigateur on peut être à l'époque des Gaulois ou ce genre de choses?
Oui, il y a au moins ça.
Ça c'est pas mal, mais peut-être que dans leur concept aussi, c'était vraiment des prêts à jouer pour présenter peut-être le jeu dans des conventions, je sais pas quoi, parce que c'est assez linéaire en fait, ce qui est une caractéristique souvent des scénarios un petit peu pour débutants ou enfin voilà.
Mm-hmm. Oui, tu considères qu'en fait la plupart des scénarios qui sont là sont pour des débutants c'est simplement leur linéarité qui te fait dire ça?
Ouais, c'est plutôt ça, leur linéarité qui me fait dire ça. Et c'est pas une linéarité à la. Enfin, comme on pourrait le craindre pour des jeux historiques où il y a des événements historiques, des personnages célèbres, et on est obligé de regarder les événements se dérouler ou de. Enfin.
Alors,
rester dans les clous.
Moi, je tiens à dire, j'ai très bien connu l'époque préhistorique et je pense
qu'il y a des
anachronismes dans ce qu'ils ont mis, qui sont complètement des plantages, quoi. Historiquement parlant, c'est absolument, absolument faux.
Ah oui.
Je tiens à insister, quoi.
Alors, t'as un exemple peut-être?
Je te le citerai tout à l'heure en off parce que je voudrais pas leur mettre trop minable quand même non plus. Mais là, il y a vraiment des erreurs notables.
De quelle tribu faisais-tu partie?
Alors, pour le scénar sur le Japon médiéval, c'est entre le 11. Ils disent qu'on peut l'intercaler entre le 11e et le 16e siècle. Donc ça va jusqu'au Sengoku Jidai, qui est la période.
Il commence à parler japonais, on le perd.
Excuse-moi.
Là.
Voilà, donc la période.
Un duc.
Voilà, non, mais donc on peut aller jusqu'à la période où se trouve Tenga. Voilà.
D'accord. Bon, merci pour cette précision qui était très importante.
Désolé de t'avoir plombé. Ça y est, je t'ai perdu en fait. Du coup, je t'ai perdu dans ton truc.
Enfin, bref, quand on a ce genre de. Enfin, moi, c'est pas un reproche de toute façon que ce soit linéaire ou pas. C'est quelque chose juste à savoir avant d'acheter ou de. Enfin, voilà. Donc, c'est pas une boîte à outils. C'est plus une. Il y a un scénario, un vrai scénario. Le pitch est souvent très intéressant. Et ensuite, on est plus ou moins.
Réceptif.
Bon, moi, le scénario sur la lune dans le futur, j'ai pas aimé par exemple.
Vaguement sur les, mais je me suis dit que ce serait l'un des plus cools que j'aimerais faire jouer avec le préhistorique justement.
Ah bah, c'est amusant, moi j'ai trouvé ça un peu bateau en fait.
Comme quoi tous les égouts vont dans la nature en fait.
Voilà. Et
merci de cet aphorisme.
J'avais qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai pas mal aimé celui sur l'époque élisabéthaine avec Christopher Marlowe et Shakespeare et compagnie. Mm-hmm. Et apparemment, chaque scénario c'est différent. Certains, apparemment, le préhistorique sont moins documentés que d'autres. Mais celui sur l'époque élisabéthaine, c'est un furieux visiblement l'auteur.
Ah oui.
Oui. Enfin, il est très documenté.
Sur ta remarque sur le fait que ce soit linéaire, je pense que le propre de l'exercice, qui est un scénario avec des prêts tirés, qui est censé, j'imagine, être joué. En une, deux, trois soirées maximum,
ouais.
Par définition, tu es obligé de faire quand même du linéaire.
Oui,
du fait du format et de la taille qu'ils ont, ils peuvent pas non plus créer un univers autour de ça. Et ils peuvent peut-être espérer quand même que le maître de jeu, s'il veut vraiment creuser la chose et le transformer en campagne, il tient qu'à lui de se documenter sur une période. Que ce soit la lune dans le futur ou la préhistoire. Excusez-moi. Non, le Japon médiéval, c'est un exemple.
C'est pas un reproche.
La période élisabéthaine, c'est typiquement, voilà, on peut trouver des infos comme on veut et broder autour, j'imagine.
Tout à fait, Thierry. Et paix à son âme. Et bon, sinon, le dépaysement, il est bien là, mais voilà, c'est vrai que sur le Japon, par exemple, le Japon médiéval, on va pas dire que le scénario donne les outils pour se mettre dans la peau d'un japonais, ouais, très clairement. Mais là, il faut lire Tenga et
voilà. Mais typiquement, voilà. C'est moi, je pense que c'est justement le genre de scénario qu'il faut pas mettre dans ce type de supplément.
Sinon, il y a le syndrome de un peu l'américain dans un corps de japonais ou du français dans un corps de japonais. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est très gênant? On s'en fout un peu.
On s'en fout. Le principal, c'est d'avoir une bonne tranche de rigolade. Non, et puis voilà, quoi. De frayeur en l'occurrence, mais parce qu'on est plus dans que tu, quand même. Mais...
Voilà. Et donc moi j'avais beaucoup apprécié Maudite soit la ville, donc celui avec celui qui se passe dans la préhistoire, donc toi aussi David, parce que c'est un peu la une inversion des rôles avec la civilisation qui représente le danger. Alors que d'habitude c'est plutôt
les sauvages.
Ouais, ouais,
ça.
Et ça m'a bien fait. Enfin j'ai bien trippé là-dessus. J'ai pas mal aimé aussi celui qui s'appelle Par-delà le temps. Qui dans les années 50 avec le FBI des un peu la Roswell et tout
je les ai pas tous lus, moi je les ai juste vaguement survolé avant de le passer.
De toute façon je vais pas spoiler parce que c'est très facile de spoiler, mais à la fin ils meurent tous et
non, ils deviennent tous fous, ils meurent pas tous. Bon. S'il te plaît.
Enfin voilà, donc il y en a d'autres, bon je m'en souviens plus très bien parce que je les ai lus sur une relation.
Quoique dans le Japon médiéval, à mon avis, les fous, il est pas sauf. Il est psycho direct. Chez la préhistoire aussi, je pense. Hein. Les fous, il y a
voilà,
pas de
donc vous pourrez découvrir les délices de l'inquisition espagnole, voilà, arpenter une station lunaire, etc. La guerre de sécession, Woodstock. Ah oui, il y a celui sur Woodstock. Juste le pitch de départ est rigolo. C'est des cultivateurs de cannabis qui vont à Woodstock, c'est des hippies, et ils se rendent compte que leurs potes meurent d'un bad trip avec leur cannabis. Oui. Et ils se disent, merde, le stock qu'on a envoyé à Woodstock, il est pourri, il faut aller le récupérer avant que les gens le consomment. Et, voilà, et bon, il y a une histoire derrière, donc là je peux pas en dire plus, mais voilà.
Non mais les pitchs ont l'air d'être bien gaulés, quoi. Ouais, ça donne envie de jouer.
Les pitchs donnent envie de jouer, et ensuite dans les scénarios, on retombe un peu sur terre, quoi. C'est pas toujours aussi
aussi brillant que ça.
Je pense que
laisser supposer.
D'un autre côté, quand tu joues une grosse campagne de Cthulhu, faire de temps en temps un petit souffle d'air, en jouant quelque chose de très différent, un one shot, pour varier les plaisirs, ou par exemple le maître de jeu de la campagne se retrouve en tant que joueur, ça peut être sympa. Donc c'est l'occasion de filer le truc à un des joueurs et puis au boulot.
Alors ma conclusion par rapport à ce supplément, c'était donc oui, mais faut retravailler un petit peu les scénarios pour les adapter. Mais bon, ça c'est toujours la même chose, mais ça l'est peut-être moins sur les grandes campagnes, sur les masques de Nyarlathotep ou sur les montagnes hallucinées.
Oui, non. En l'occurrence, les campagnes publiées, moi je sais pas, j'en ai jamais joué une telle qu'elle était écrite, parce qu'à chaque fois, ça dépend de la sauce comme elle prend au niveau de la table. Et des fois, le parti pris des auteurs, t'aimes bien la campagne dans le principe, mais il y a des trucs qui te paraissent complètement
absurde,
à l'ouest,
ou
absurde, et tu te dis mais non. Je prends un exemple sans spoiler dans les montagnes hallucinées. Dans le début du scénario, il va falloir vérifier toute la cargaison.
Oui. Oui, ça j'ai lu, c'est ce passage.
C'est inutilement chiant. Tu peux y passer une partie, deux parties, ça n'a aucun intérêt. Alors si, l'intérêt...
Après, tu retrouves des caisses où t'as 20 fois le même objet.
Voilà,
non,
c'est
des trucs rigolos.
Mais c'est
drôle pour le MJ, en fait.
C'est anecdotique. Tu peux le faire passer en une heure de temps et leur montrer les erreurs et les oublis qu'ils ont eu, qui sont très drôles pour certaines. Mmh. Notamment, les sardines et l'huile de sardine. Bon, bref, j'en ai qu'un parmi tant d'autres. Mais... je vois pas l'intérêt.
Un inside joke là, parce que
Gros,
ça te fait rigoler.
C'est le spoiler, si tu veux. Alors, c'est un gros spoiler.
Attention, spoiler. Hein, fermez vos yeux, les enfants, les oreilles.
Parmi la cargaison, ils avaient normalement un certain nombre de kilos de sardines. Et en fait, quand ils vérifient la cargaison, ils se rendent compte que c'est juste de l'huile pour les sardines.
Oui.
Mais pas, il y a pas les sardines avec. Voilà, bon bref, c'est. Mais tu vois, c'est pas forcément.
De l'huile de sardines ne tolère pas.
Voilà, donc. Bref, des choses comme ça. Mais donc pour moi, une campagne en l'état, elle est forcément retravaillée, parce qu'il y a toujours des choses qui vont fonctionner avec certains joueurs qui ne fonctionneront pas avec d'autres. Et tu l'adaptes au fur et à mesure où tu l'as fait jouer. Il y a des choses que tu peux prévoir, d'autres que tu ne peux pas prévoir.
Donc je disais oui, mais donc faut pas s'attendre à le jouer. Enfin, remarque, si on peut le jouer tel quel, hein, pour tout, c'est livré avec des personnages prétirés.
Oui.
Il y a des scénarios, on peut les suivre. Bon, ensuite, la plupart des maîtres de jeu, je pense, voudront mettre leur grain de sel là-dedans. Ouais,
modifier quelques...
Toi le premier.
Voilà. Ensuite, moi, je dirais qu'il faut surtout pas montrer aux joueurs les illustrations complètement pourries qu'il peut y avoir à plein d'endroits. Parce que ça vous casse une ambiance comme pas possible. Mais bon, je fais ce reproche, bon, c'est pas facile non plus... Même la couverture, je l'aime pas parce qu'elle fait trop Donjons et Dragons. Enfin,
c'est vrai, ça c'est un peu vrai. On dirait Bestiaire monstrueux numéro 12.
et dernièrement, moi mon conseil serait de pas dire aux joueurs qu'ils jouent à Cthulhu quoi, pour leur faire une belle surprise. Bah, ils jouent à Tanga et puis on fait un dérapage. Et puis,
alors, c'est pas Tanga, c'est Tenga. C'est, Tenga. C'est avec un E.
Tenga.
Sinon, Tanga, c'est les slips, c'est ça?
C'est ça, ouais, un truc pour Nana.
Il y a Yamamoto Tenga.
Voilà, mais c'est Tenga.
Ok. Et donc, bah, par exemple, vous faites une partie de, vous faites une campagne de Wurm, bah, on pourrait imaginer que ils font un petit one shot où ils font le scénario maudit soit la ville,
oui.
Quitte ensuite à revenir en arrière une fois que tous les personnages sont morts en disant bah voilà, en fait, on joue avec Toulouse sur ce scénario-là. Enfin, je sais pas, ça pourrait être sympa de surprendre un peu.
Ou alors,
comme ça.
Oh, tout ceci n'était qu'un rêve.
Ouais, on va éviter.
Ouais, c'est permet de rationaliser le fait de garder des XP. Voilà, bon, moi j'ai franchement, je suis pas sûr que j'irais débourser 38€ pour ça.
C'est vrai.
Oui, ouais. Parce que en fait, si je devais, mais c'est parce que moi j'ai pas de, donc à part les masques, je sais plus si j'ai d'autres suppléments de Cthulhu, mais c'est ce serait vraiment pas la priorité pour moi. C'est enfin et.
D'accord.
Ça m'a, enfin, les pitchs m'ont fait triper souvent, mm-hmm. mais ensuite je suis pas tombé amoureux mm-hmm. du bouquin. Mm-hmm. Et puis il a un côté réalisation un peu, enfin, je sais pas. Moi, je suis assez, ça me hérisse quand il y a des petites fautes de français ou quand j'ai l'impression que ça, voilà, que c'est pas
ah,
super.
Ouais.
Ouais.
Ah, c'est dingue. Alors maintenant, je vais te dire pourquoi moi je l'ai acheté. En fait, c'est le premier supplément Cthulhu que j'ai. Parce que j'ai juste l'édition 5.5 de Descartes paru il y a quelques années, qui était vraiment super bien. Et
ouais, la 6 enterre tout quand même.
Et j'aime bien les comment dire, les aventures de Cthulhu et tout, mais je sais pertinemment que j'aurai jamais le temps de, ni même probablement l'envie de maîtriser une campagne complète de Cthulhu. Et quand j'ai vu ce bouquin, je me suis dit, tiens, ça peut être un petit truc qui, moi, m'intéresserait, parce que c'est du one-shot. À chaque fois, on va changer complètement d'univers, d'ambiance, de trucs, et comme ça, trouver un nouvel intérêt, si tu veux.
En ambiance, tu l'as à une époque, il y avait les demeures de l'épouvante là, qui était un supplément sympa si tu voulais faire des maisons hantées, qui étaient, bah, c'était des one shot à chaque fois, donc c'était
ah oui,
pratique,
c'était un spécial maison hantée.
Mais c'était en, bah, je crois qu'il y en a même eu deux, hein, et qui étaient en version.
Ça
donc,
a la réputation d'être un peu pourri, non
Moi, je me rappelle au moins d'un scénario qui était vraiment très bon, que j'avais fait jouer, j'avais vraiment adoré. Après, je sais pas, il y a eu plusieurs suppléments en demeure de l'épouvante. Je crois il y a eu le 1, le 2. Moi, je connais que le 1 et j'avais trouvé ça plutôt convaincant. Pour le scénario que j'avais fait jouer.
Donc, toi, Koval, donc, ce que tu retiens, c'est que ça pourrait te permettre de jouer ou de faire jouer un jour à l'appel de Cthulhu.
Voilà, c'est faire un petit Cthulhu
moi,
à l'occasion, tu vois. Voilà.
Moi, ouais. Mon réflexe, qui ai déjà perdu l'espoir, quelque part, ou alors.
Perdu
ou
l'esprit,
alors,
surtout.
Ou alors qu'il y ait d'autres priorités ludiques, je sais pas, mais ce serait plutôt effectivement une belle campagne ouais. Mythique, parce que ça fait de la lecture pour les longues.
C'est du boulot de préparation aussi, beaucoup
mais
plus.
Mais sans espérer pour autant le ouais. faire jouer, je sais pas.
Et toi, par exemple, la réédition des masques, ça t'intéresse? Intéresserait
En fait, franchement, je préférerais lire quelque chose de nouveau, je pense.
Ouais, d'accord, ok. Pourtant, il a l'air bien, ils ont l'air d'avoir fait un travail assez énorme. C'est les gens de Tok qui ont bossé là-dessus.
Enfin, je sais.
Je savais pas.
Les masques de Nyarlathotep, donc on était bien lancé dans la campagne, et puis bon, je sais plus pourquoi on avait arrêté. Et
il y avait dû y avoir quelques morts et je pense que les joueurs au bout d'un moment en ont eu marre.
Je sais vraiment plus, mais non, les gens appréciaient. Mais le problème, c'est que du coup, ça reste un peu comme un enfant mort-né. Ouais. Et du coup, j'ai pas envie de retourner le couteau dans la plaie en rachetant une nouvelle campagne qui s'appellerait Les Masques de Nyarlathotep.
Je comprends.
D'accord. En revanche, s'ils font le film, j'irai le voir.
Ok. Merci Cyril. Bon.
C'est à toi de bosser maintenant.
Eh bien oui, je vais maintenant vous parler de Unmighty Fuse.
Alors Cobal, tu vois ce précipice là ?
Ouais.
Il faut que tu ailles de l'autre côté. Attends, je te lance.
Merci Cyril pour ce lancement.
C'est très fort. Il est très fort.
Ouais. Donc, Unmighty Fuse, donc c'est un jeu qui fait partie de la pléthore de jeux que j'ai ramené de la convention Eclipse au mois d'avril dernier. Il s'agit donc d'un jeu de Simon Carrier, j'ignorais l'existence jusqu'à maintenant, qui est édité par la boîte à eux, qui s'est donc spécialisé dans les petits jeux indépendants en format
A5.
Narrativiste.
Oh là 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 là.
Ah là, je suis un ouf, moi, j'ose tout. C'est un livre qui fait 48 pages et qui coûte 10€, donc vraiment pas cher. Alors le propos du jeu est plutôt simple et ça tient tout entier dans le sous-titre, comme vous pouvez le lire dessus, aventure, sorcellerie et baston. Donc il a été vraiment conçu dans ce but de faire jouer des aventures de Sword and Sorcery à la Conan. Plutôt avec des joueurs proactifs, donc plutôt des gens qui aiment autant raconter des bouts de l'aventure que la vivre, hein, c'est-à-dire pas être uniquement la créature du meneur de jeu.
Pas le passif, quoi.
Voilà. Alors, là-dedans, vu la faible taille du bouquin, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas des milliards de scénarios dedans et autres, mais c'est un peu normal, puisque c'est un jeu où on construit tout au fur et à mesure que l'aventure avance, en sachant qu'on crée quand même quelques briques de base auparavant. Alors tout d'abord, comment on crée un perso ? Donc c'est un jeu qui utilise tous les dés classiques, donc D4, D6, D8, D10, D12, etc. Les dés seront affectés à divers aspects du personnage. Par exemple, tous les persos ont 3 caracs, et les caracs s'appellent aventurier, sorcier et guerrier.
Excellent.
Donc ton perso, il est toujours, même s'il est plus aventurier, il est quand même un petit peu sorcier, et puis quand même un petit peu guerrier aussi. Et vice versa pour tous les arrangements possibles. Simplement, ça te permet de donner un caractère plus fort à l'une de ces 3 composantes. Donc là, on attribue le D4, le D8 et le D12. Donc l'aventurier, ben c'est simple, c'est penser à tout ce que peut faire Indiana Jones hors action de combat. Donc sauter, grimper, nager, tirer,
ou le voleur.
Oui, voilà.
Le voleur du groupe.
Faire une moue d'exaspération. Il est très bon pour ça.
En moue d'exaspération ?
Ah oui, très bon.
D'accord, sûrement.
Un jeu de mots foireux aussi, qui marche bien auprès des téléspectateurs.
De quoi ?
Jeu de mots foireux
aussi.
Ah oui,
jeu de mots foireux, oui, comme compétence.
Il est bien foiré là.
Et puis il court avec des grosses roches derrière qui roulent aussi.
Oui, voilà. Il est spécialiste en attirer les rochers. alors, le sorcier, quant à lui, c'est tous les savoirs mystiques, les connaissances livresques, le déchiffrage, la résistance à la magie. Et alors c'est un point important, le lancement de sorts pyrotechniques avec des trucs qui explosent dans tous les sens et des boules bleues et violettes, ça fait pas partie de cette caractéristique. C'est hors combat en fait, tous les trucs de sorcier.
Ah.
Donc après ça peut te donner de gros avantages pour faire des choses. Mais c'est pas du lancement de sort offensif.
Ouais, c'est quoi cette arnaque ?
Comment
je lance ma boule de feu ?
Tout le monde a peur de lui, mais il peut pas lancer une boule de feu.
Alors, mais attendez, je n'ai pas encore fini. Après ces 3 caracs, il y a également 2 compétences qui désignent en fait le métier ou une aptitude un peu particulière pour le personnage.
Donc, gros sort qui tabasse.
Voilà, par exemple.
D'accord, c'est une compétence.
Voilà, ça peut être une compétence ou réflexe de cobra ou invocateur de démons ou bourreau de l'empereur. Ouais, alors pour les compétences, il y a un truc qui est bien, c'est donner un petit peu aussi de la couleur de l'univers à ton perso. C'est-à-dire que tu n'es pas un simple archer, tu es l'archer de la garde argentée du duc machin chose.
D'accord.
Parce que c'est, ce sont ces éléments qui vont probablement aussi servir par la suite.
Pour le MJ, pour qu'il fasse son scénar.
Voilà, exactement.
Dans l'idée, quoi. Donc t'apportes ta pierre à l'histoire et à l'univers, histoire que elle se fasse, cette fameuse histoire, justement.
Exactement. Alors, et il y a enfin une dernière caractéristique qui s'appelle la caractéristique des vins. Et ça désigne un trait de caractère du personnage. En fait, lorsque l'on suit ce trait de caractère, si pendant toute une scène tu as bien suivi le trait de caractère de ton perso, que t'es pas allé à son encontre, tu vas gagner un jeton qui va te servir à relancer des dés par la suite.
D'accord.
Et à un moment donné, lorsque tu en auras vraiment besoin, tu peux décider d'agir à l'encontre de ce trait de caractère. Et là, tu pourras lancer un dé à 20 faces au lieu de ton jet d'attributs standard.
D'accord.
Par exemple, quelqu'un de particulièrement coire, au moment du grand final contre le démon, il aura le courage de faire une action absolument incroyable. Et voilà, c'est pour le côté cinématographique de la chose.
Et comment se résout une action bêtement? C'est quoi? C'est,
je veux alors, dire, c'est, ouais. C'est en fait, c'est très simple. Tu lances le dé qui correspond à la lune de tes trois carac. Mm-hmm. Et puis, si une ou deux de tes compétences peuvent entrer en jeu, tu les ajoutes. Donc, tu as entre 1 et 3 dés.
D'accord.
Pour une action de base, il faut faire 4 ou plus. Mmh. Donc évidemment quand tu as juste ta carac qui est au D4
ouais, c'est sûr.
c'est un peu délicat sinon le seuil à atteindre est évidemment le chiffre qu'a fait ton opposant
d'accord, si, donc la difficulté sinon elle est mobile, le minimum voilà. C'est 4 grosso modo et voilà. Sinon le MJ lance de son côté des dés en opposition déterminant voilà. Les traits de l'opposition
exactement,
donc en sachant pas, t'as un D4, un D6,
que les je crois que les méchants ils peuvent avoir un D6 et un D10 ou un truc comme ça
et les dés pour la difficulté s'additionnent, donc si j'ai un D6 et un D10 pour mon méchant, je lance les deux dés, j'additionne, ça fait la difficulté
ouais, c'est le meilleur ça. Ouais c'est d'accord. Ça ouais, c'est ça. Tu additionnes tout et tu compares les scores. Chose intéressante pour le narrativiste qui dort en chacun d'entre nous. lorsque l'on fait un jet et qu'on gagne, donc t'as une marge de réussite. Mm-hmm. Et en gros, tu divises par 2 et ça te donne ton nombre de réussites. Et pour chacune de ces réussites, tu peux ajouter à ta victoire
une phrase,
un fait. Qui sera en fait ajouté à la narration. Donc par exemple tu viens tu décides d'écouter à une porte et si tu réussis donc effectivement tu entends ce qui se passe de l'autre côté, mais tu peux dire que tu entends des orques qui sont 5 et ils sont en train de se battre entre eux. Voilà, donc ça te coûte 3 faits.
C'est un peu, on retrouve quoi, de toute façon, on retrouve ça dans plusieurs jeux narratifs.
Ouais,
et justement, dans Houses of the Bloodied, quand tu réussis et que tu gagnes une action, bon, il y a une sorte d'enchère si tu veux quelque part, mais en effet, de la même façon, tu peux, si tu gagnes, c'est celui qui gagne grosso modo qui va pouvoir commencer à dire ce qui va se passer. Mmh. Et l'autre peut intervenir par rapport à tout un jeu qui se fait, mais c'est, de toute façon, c'est toujours l'idée, c'est en fonction des réussites. C'est un peu le gagnant qui va rajouter des choses, mais on va pas complètement ignorer le perdant non plus pour que...
C'est Il était une fois, votre jeu.
Et non, parce que dans Il était une fois, tu n'as pas de feuille de perso,
t'as
pas de
personnage. Et puis tu débarrasses de cartes. Le but du jeu, c'est de te débarrasser de tes cartes aussi.
Ouais. Et il y a un gagnant et un perdant.
Dans les jeux de rôle, tu sais bien, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On se fait tout savoir à la fin.
Voilà.
Et on y revient.
C'est le MJ qui gagne.
Voilà.
Alors, où est-ce que j'en étais?
Je disais pour la résolution des actions, mais je t'ai peut-être perdu dans ton ordre.
Donc, oui, la résolution des actions. Oui, alors, lorsque... après, évidemment, en cas de combat, il y a des blessures, il y a des machins. Lorsque tu perds ton jet contre un adversaire, il peut décider de t'infliger une blessure. Mmh. Lorsqu'il fait ça, en fait, ça te fait un malus de moins 2 qui va... il t'inflige une blessure et tu peux faire disparaître cette blessure en mettant en scène la blessure en question dans une scène où tu auras un malus de moins 2 à l'action que tu accomplis.
D'accord.
Et en fait, c'est un choix que tu fais de, à ce moment-là, de te débarrasser de cette blessure, mais en te donnant un désavantage temporaire.
D'accord.
En sachant que les personnages meurent s'ils ont plus de 3 blessures. Mais en fait, j'ai un petit peu lu les y a un thread de Cassius Snow qui est consacré à ça. Où, Un Jean-Jacques, si tu peux.
D'accord, ok, bon, ça me va là, ça me va là, je comprends mieux.
Donc, dans le Jean-Jacques en question.
Merci.
Il y a donc, il y avait donc Ludovic Papaïs qui est l'éditeur, qui est l'éditeur du jeu.
Jean-Jacques là dans le Fred, c'est ça en fait. Excuse-moi. Donc Ludovic Papet, excuse-moi. Oui,
donc Ludovic Papet, qui est l'éditeur du jeu, a transmis des questions, notamment par rapport à ce système de blessure qui est pas forcément facile à comprendre, parce qu'en fait il mélange deux choses différentes, c'est-à-dire une interprétation narrative des événements avec une interprétation chiffrée qui est liée à la mécanique de jeu. En fait, l'interaction entre les deux n'est pas complètement bien vissée, en fait.
C'est comme l'interaction entre la possibilité de tricher et la possibilité de se tromper en faisant des calculs, etc.
En fait, ça manque d'exemples. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ça manque d'exemples dans le bouquin pour bien le comprendre.
Pas que d'exemples. En fait, je pense qu'il y a des choses qui sont mal expliquées ou peut-être pas bien fini de concevoir, j'en sais rien. J'ai l'impression
c'est
qu'il y a
hybride.
Il y a un petit glitch à ce niveau-là qui me paraît pas, enfin qui est pas très important parce que le jeu je l'ai maîtrisé. J'ai fait une partie avec des potes qui bien rodés, c'est qu'on une 10 ou 15 ans de jeu de rôle derrière eux, donc ça leur pose pas vraiment de problème. Et dans ce cas, ça passe tout seul. Ils prennent très vite le pli pour ajouter des faits à la narration. Ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, pour la gestion des combats, des trucs comme ça, c'est pas encore... voilà. C'est, voilà. Mais comme tu dis, peut-être des exemples, effectivement. Ou une autre façon de le dire, ou je sais pas
des
trop.
Cas, ouais. De toute façon, je reste convaincu qu'écrire des règles, c'est un métier. Et souvent dans le milieu, dans les bouquins qu'on voit, soit sont d'excellents conteurs, d'excellentes idées pour des scénarios, et très mauvais pour les règles, ou vice versa. Et je comprends pas, j'ai jamais compris pourquoi, rarement, ils arrivaient à associer les deux compétences en prenant tout simplement deux personnes. Qui ont chacun la compétence qui va bien et qui se complètent super bien. Et ça, c'est incompréhensible. Et c'est vrai que dans les jeux dits de la scène indépendante, quand même souvent tu trouves de très bonnes idées,
ouais.
Même sur le principe du système de règles, et puis après t'arrives et tu fais qu'est-ce qu'il y a écrit là, j'ai pas tout compris là. Ah, ok, après tu dis l'argument, ouais, c'est en anglais, donc je dois pas être si bon que je pense en anglais, ça doit être ça, puis après tu le vois en français, tu fais en fait j'ai rien compris.
en fait c'est pas forcément d'ailleurs parce que les gens ont pas la compétence, mais c'est parce qu'ils ont peut-être pas le réflexe de faire ce que vous mentionnez, c'est-à-dire de faire des tests prolongé, c'est vrai que...
Tu veux dire que les jeux de rôle sont testés avant d'être publiés? C'est... Ça se fait maintenant? Ah non, parce que jadis, je crois que ça se faisait jamais. Hein.
Maintenant, il y a des jeux qui sont testés de manière très intensive. Hein. Je sais que le dernier Vampire ou le dernier Donjon,
Ou puis même dans les maisons d'édition récentes, par exemple, là... notamment Johan Scipion qui a joué à Sombre pendant, mais je sais pas combien de dizaines, mais je crois qu'il doit avoir une centaine de parties
au moins.
Et d'ailleurs j'avais joué avec lui et ça se sentait, hein, c'était super carré et tout, et tout tombait bien.
Oui, c'est sûr.
Et bon, je reviens,
je suis désolé de te perturber dans ton fil.
Ouais.
Ton Fred.
dans mon Jean-Jacques. oui, je disais, justement, en comparant des jeux indépendants et tout, notamment ce jeu, il est inspiré du donjon de Clinton et Nixon.
Oui.
Et sauf que lui, il a modifié...
Sorcerer.
Sorcerer, c'est Ron Edwards.
Ah oui, mince, exact.
D'ailleurs, Donjon et Sorcerer utilisent le même système de lancer de dés, où tu dois faire des dés, tu dois faire des lancers où les dés ont une certaine hauteur, tu sais, et tu cumules les dés qui ont une hauteur identique.
20 cm et un mouvement du poignet droit, le système de lancer de dés.
Oui, voilà, et avec un angle de 62 degrés pour mieux les lancer.
Voilà. Voilà. C'est bien ça.
Il faut respecter le champ contre champ pour être sûr que ça marche.
Oui, voilà. et notamment, je me souviens que dans Sorcerer et dans Donjon, le système le simple système de jet de dés sur le papier, là, ça a l'air super bien. Mais en fait, moi, je l'ai fait jouer et c'est chiant. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Et lui, le mec qui a fait donc Simon là, il a changé ce système de dés et du coup, ça marche beaucoup mieux. Mais il y a encore des petites bidouilles.
Donc ça veut dire qu'il a très bonnes idées pour des systèmes, mais par contre il faudrait qu'il apprenne à écrire clairement pour que ce soit pas pour l'expliquer juste à lui, mais aussi aux gens qui ne comprennent rien.
C'est bien possible.
C'est bien connu. Un système de jeu, de toute façon, c'est la personne qui fait les démos en convention qui
les connaît le mieux.
Qui doit le voilà.
On connaît l'exemple pour plein de jeux. Je ne donnerai pas de nom.
Bon, alors. Maintenant, quittons un petit peu le système pour aller vers les aventures, donc qui est quand même le cœur de la partie. Avant de commencer celle-ci, on prend une feuille vierge et chaque joueur, à tour de rôle, va dessiner un lieu sur cette carte vierge. Et c'est ce qui va
en lui donnant un nom à chaque fois.
Au lieu, ouais, bien sûr. C'est les marais du tourment, les falaises du crépuscule, trucs comme ça. Et chaque lieu doit être suffisamment intrigant, intéressant et tout. Bien sûr, le MJ et les joueurs peuvent échanger. Ah bah ce serait bien si on avait tel endroit et tout. Ah bah oui, moi je vais le choisir. Donc il dessine son truc et il met le nom du lieu. Et en fait, ainsi on va tracer plus ou moins la carte. Tu sais que tu vois dans les voyages d'Indiana Jones en avion, c'est le trait rouge qui se balade sur la carte. C'est un peu ce que seront amenés à faire les personnages. Ouais, et du coup, le MJ va s'accrocher à tous ces éléments-là que l'on décrit au fur et à mesure pour constituer son scénario, qui, de toute façon, sera sans doute un peu basique, puisque c'est du Sword and Sorcery d'une part, et puis les joueurs ne font qu'accumuler des éléments en plus de narration, donc c'est vachement difficile, je pense, d'avoir une intrigue...
Alors,
je
connais pas tous les jeux narrativistes, loin de là, mais je trouve que l'approche est intéressante parce que souvent dans les jeux, même narrativistes, où pendant le cours de la partie, les joueurs rajoutent des éléments, c'est intéressant de le faire dès le début au niveau de l'univers, parce que c'est vrai que le problème que tu peux avoir avec tes joueurs, hormis si tu les connais très bien depuis des années, mais même si tu les connais depuis des années, souvent ils disent pas ce qu'ils veulent. Tu crois deviner ce qu'ils veulent et tu fais des trucs qui vont leur plaire. Mais t'es jamais sûr que ça leur plaît vraiment parce qu'ils répondent pas toujours ou ils te le disent pas directement. Et là, leur donner part à la création de l'univers en leur donnant des noms, déjà, tu vois, en voyant leurs noms et les lieux qu'ils vont donner, tu peux imaginer ce qu'ils souhaitent. Un mec, il va dessiner une entrée d'un donjon en lui appelant ça le donjon de la terreur, alors que l'autre derrière, il va dessiner le nom de ville et il va appeler ça un truc un peu fleuri, machin. Déjà, tu peux deviner qu'il y a un petit peu quelque chose. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant parce que, du coup, au niveau du MJ qui connaît pas les joueurs et qui est en convention, qui est avec des joueurs qu'il a chopé dans un tour ou je ne sais quoi, ça peut au moins teinter la chose et lui donner une piste sur qu'est-ce que je vais faire de ces boulets que j'ai autour de cette table que je ne connais ni Dave ni Nathan. Voilà, non, bref, j'ai tout ça pour dire. Mais je trouve que c'est intéressant que, en amont, je crois que c'était. D'ailleurs, ça devait être dans Dirty Secret of the MJ là, de John Wick, où il parlait justement de l'importance.
Dirty MJ,
d'avoir l'importance de pouvoir. Donner que les joueurs aient un rôle dans la création de l'univers et du coup ils s'y investiront plus, c'est sûr que c'est une recette qui marche bien quoi. C'est une réalité.
Et alors en plus de sur la carte également les joueurs écrivent le nom du trait de caractère qu'ils ont choisi pour leur caractéristique des vins. Par exemple, s'ils ont choisi mélancolique, ils vont et qu'ils le placent sur un pôle de, ça va devenir un pôle de la carte si tu veux, et les lieux qui seront proches de ce pôle seront teintés par ce trait de caractère.
Ouais, c'est sympa.
Donc, s'il y a un pôle mélancolie, ils auront tous les cheveux longs, l'air triste et il va pleuvoir tout le long de la journée.
Je trouve ça vraiment très sympa comme
et
comme
ça
approche.
Permet de teinter comme ça vachement les lieux et d'avoir tout de suite une idée de ce qui va se passer dans des endroits comme ça.
Well done.
Alors, Donc le jeu est clairement orienté pour faire vivre des aventures pleines de bruit et de fureur, avec des grosses épées, des pouvoirs mystérieux, des créatures sanguinaires.
Du vrai porte-monstre trésor.
Voilà. Enfin, pas tellement porte-monstre trésor, mais du pulp aventureux, quoi.
D'accord.
C'est Montagne du Crépuscule, sorcier trésor.
Et sorcier la montagne de feu, tout ça.
Oui, voilà, oui. Le temple de la malédiction.
C'est ce
dont on a parlé.
Concours de titres de livres dont vous êtes le héros. Allez, en avant.
Ouais, mais justement, ça marche super bien sur des trucs de ce type. Bon, évidemment, donc, vu le type de jeu, le bouquin propose pas de scénario parce que ça sert pas à grand chose. Mais par contre, il fournit en annexe des tableaux qui permettent de tirer aléatoirement des intrigues, des noms de compétences, des noms de persos, des titres de noblesse un peu alambiqués qui suggèrent des choses en fait derrière. Donc des lieux intéressants, et il y a aussi des exemples de cartes pré-remplies pour montrer à quoi ça peut ressembler. Et ils ont fait des.
Je pense que ça va être vraiment utile.
Ça, c'est intéressant. Et ils ont fait trois types. Je crois qu'il y a trois ou quatre cartes exemples. Et il y en a une, par exemple, où c'est un donjon. Et où c'est un petit tunnel qui descend sous le château. Et là, tu as la caverne de la goule ou je sais pas quoi. Après, tu as un autre tunnel où tu as un autre lieu. Et donc évidemment les tunnels représentés sont purement symboliques, voilà, c'est juste pour montrer que les lieux s'enchaînent de telle et telle manière. Et voilà, donc ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec. Je pense que pour moi c'est un excellent jeu de vacances en fait.
En plus vu le prix et vu l'épaisseur du bouquin, donc tu peux le mettre facilement dans ton sac, t'es pas en kikiné avec ça.
Tu mets ça dans ton sac de plage.
Voilà, c'est ça.
T'as pas besoin de grand chose. Bon,
tu peux dessiner la carte sur le sable.
Voilà, tout à fait.
Ça le fait grave. Ouais. Ça le fait grave.
Et tu peux même les faire en
3D.
Les châteaux
de sable.
Et voilà, c'est bon plan.
Faire la grotte du monstre, et t'as un big gym pour faire le monstre. Et
pour peu que t'aies des marmots qui traînent, tu les exploites pour qu'ils fassent le château de machin et tout. Allez au boulot là, et moi je prépare mon scénar. Allez, hop. Ah, c'est pas le bon plan ça.
Et une fois qu'ils sont au club Mickey, après tu peux jouer.
Ouais, non, c'est le bon plan, c'est ça.
Donc, alors en revanche, c'est un jeu qui est pas fait pour les feignasses, donc tu peux pas te mettre les pieds sous la table et attendre que le MJ déroule l'aventure sous tes pieds. Voilà.
Faut bien que ça change un peu, ça.
Voilà, donc faut que tu mettes la main à la pâte, mais à partir du moment où t'es lancé, j'ai remarqué les joueurs ils accrochent hyper vite. Ils sont super contents de rajouter leurs petites conneries, leurs petits.
Ils reviennent à reculons, mais après ils reviennent avec plaisir.
Voilà.
Une fois que tu les as convaincus, à coup de fouet, ils sont contents.
Non, vraiment pas en reculant, mais d'un autre côté, j'ai pris des joueurs de longue date, que je connaissais bien, tout ça. Donc, je sais pas ce que ça aurait donné, par exemple, si j'avais été en convention.
Ouais.
Ce serait une expérience intéressante
Puis il faudrait voir avec des complets débutants comment ça peut fonctionner. J'imagine que ça doit quand même pas mal fonctionner dans le principe. Parce que le fait de pouvoir participer à l'histoire et d'en être vraiment l'acteur tout en teintant un peu l'univers, ça peut peut-être leur plaire. Et comme ils n'ont pas d'a priori vu qu'ils débutent complètement, ça peut peut-être fonctionner. Je sais pas. Hein, là, c'est,
je pense qu'il y a moyen. alors, petite critique tout de même. Le jeu, évidemment, manque d'illustration. Mais bon, dans un jeu de cette taille, on ne va pas trop en demander non plus. Je trouve pas que la couve soit terrible, mais elle est dans le ton, c'est du Sword and Sorcery, on identifie tout de suite le genre. Mais c'est un peu terne, c'est pas très. C'est pas hyper bien dessiné.
Franchement, j'ai vu pire. C'est pas.
Ah oui,
c'est
ah bah, ça, oui, ça c'est clair.
Et, un des reproches que tu peux faire, c'est qu'il n'y a pas de version collector.
Alors, c'est vrai qu'un coffret en écaille de dragon, ça pourrait grave le faire pour
ou
le coup.
Ou en pot de poney.
En pot de poney, ouais. Parce que c'est vrai que tu peux peut-être essayer de voir.
Piqué à la main, tu sais.
Un truc où il y a des loups qui tabassent, ça pourrait être pas mal. Je sais pas, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien.
Ou une fille à gros nichons.
Ou tu aurais pu le faire. Ouais, la pot de poney, c'était bien ça.
Ouais. Donc, mon conseil, faites une version collector de On Mighty Fuse en pot de poney. Et bien voilà, ma foi j'ai terminé maintenant Mickaël, ça va être à ton tour, c'est l'épreuve du feu.
Alors l'épreuve du feu qui est un retour d'expérience.
Je peux faire une interruption très brève parce que tu dis épreuve du feu pour Mickaël, mais moi je me souviens quand j'étais adolescent boutonneux et essayant sur ma petite radio de capter sur les ondes Mickaël qui déjà à l'époque faisait de la radio quoi, les chroniques de l'imaginaire, c'était quelque chose.
Il y a quelques années, ouais. Il y a eu quelques concours d'ailleurs où tu as gagné, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Oui, j'étais votre auditeur, donc.
c'est vrai, merci Cyril, heureusement que tu étais là. C'était
c'est
il y a quelques années.
Le fidèle auditeur.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'était drôle, voilà, à l'époque, en 95, entre 95 et 2000. Voilà, les chroniques de l'imaginaire sur la banlieue sud-ouest de Paris.
Oh. Il fallait capter, c'était une petite radio, donc il fallait.
C'était une radio associative qui émettait, qui pouvait pas atteindre Paris, c'était pas possible parce que l'émetteur était pas assez puissant. Mais on faisait ce qu'on voulait et on avait 2 heures de live par semaine. Donc on faisait 2 heures de live à l'époque, on s'est bien amusé.
Ah, ça devait être sympa.
Ouais, c'était vraiment.
Donc c'est l'épreuve du feu, mais ça va. T'as pas trop de problèmes pour t'exprimer en public, tu vas pas trop bégayer.
Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, hein. Je tiens à le dire, hein. Fait 12 ans que j'ai pas parlé devant un micro.
En même temps, t'as vu comme il est bavard, je pense qu'il y a pas besoin de beaucoup le pousser.
C'est ça, en fait.
Et il a fait aussi 2D plus 3.
Oui, 2D plus 3, je l'ai
t'as pas présenté.
Je l'ai produit.
Mais c'est vrai que je t'ai même pas présenté.
Moi, c'est pas très utile. Moi, je suis un homme de l'ombre. Non, mais c'est vrai, parce que 2D plus 3, par exemple, quand on l'a fait, moi, je produisais, j'étais de l'autre côté. Donc, on faisait toutes les vidéos, les petits films qui étaient passés, on allait les faire pendant la semaine.
Vous détruisiez des jeux de rôle.
Oui, le crash
horrible.
Test.
Ouais,
voilà, le crash test, on s'est bien amusé. On a eu quelques
retours
assez enflammés d'un auteur, notamment.
Je suis sûr de savoir qui c'est.
Alors, de toute façon, il y a prescription.
Est-ce que c'est le jeu que vous avez noyé dans un lac?
Non. Polaris, on l'a noyé. C'est Polaris qu'on a noyé, il n'y a pas eu de problème. Hein. Prophétie, on se l'est fait à la masse d'armes, au jugement de Dieu, je ne sais plus quoi. Bloodlust, on l'avait enterré, et puis il avait réussi à sortir de terre, et il a massacré la personne qui l'avait enterré. Bref, il y a eu plein de trucs. Et celui où on a eu un problème, c'était Courtisan, qui est un jeu de société.
Ouais.
Laurent Pachery ou quelqu'un, je sais pas, il s'appelle Pachery l'auteur, et on l'avait reçu, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais fait un Colin Maillard dans un jardin, il était suspendu à un arbre et j'étais avec une masse dans la main, alors Colin Maillard, et en fait l'auteur il s'était adressé à nous parce qu'il comprenait pas le truc quoi, et c'était complètement gratuit, et puis l'idée c'était, voilà, Colin Maillard, je m'étais dit courtisan, Colin Maillard, et donc je suis allé à la masse et j'ai défoncé le jeu, une fois que j'ai réussi à l'attraper, je l'ai défoncé, en fait. J'apparaissais à peine dans 2D plus 3 parce que j'étais juste sur les vidéos de temps en temps, mais le crash test on s'est fendu.
Au début tu le présentais, si je me souviens bien.
Je sais même plus.
Si.
Après il y a eu Julien Blondel, il y a eu Jean-François Bonnet, il y a eu.
Je me souviens de la barbichette entre Julien et Croc.
Ah ouais, c'était énorme. Bref, on a fait 2-3 conneries. Avant ça j'ai fait de la radio et puis après backstab. Deux, trois conneries de ci, de là, et puis après. Mais c'est vrai que généralement j'étais plutôt. On voyait pas trop mon visage, on m'entendait pas, j'étais plutôt de l'autre côté. Et ça m'a toujours convenu, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Donc, bref, on s'en fout en fait.
Ouais.
Donc voilà. Puis d'ailleurs, j'ai un message personnel à monsieur Julien Blondel. Parce qu'en fait, à l'époque du grog, il y avait des bios, tout ça, et puis moi, ça m'écrire ma bio, je voyais pas l'intérêt. Et Julien Blondel m'avait promis, Julien, tu m'avais promis, de m'écrire ma bio sur le grog. Et nous sommes en 2012 et je l'attends toujours. Voilà, c'était juste un message personnel. Voilà.
Message personnel.
C'est ça.
Alors, donc, pour ta première intervention, tu vas nous faire un petit retour d'expérience sur Warhammer 3.
Alors, Warhammer 3, je pense que c'est typiquement le jeu où on pourrait faire un parallèle entre la querelle des D&D 3, 3.5 et D&D 4. Il y a, il y a un
c'est
jeu, c'est
anciens,
mieux, l'autre,
modèles,
voilà, là, bref. C'est à peu près le même truc. Entre Warhammer 2 et Warhammer 3, il y a un monde assez important. Pas mal de grincheux, quand la troisième édition est sortie, j'avais commandé la boîte, je m'étais dit, oh, ça va être énorme. Et j'ai commencé à lire. Et je me suis perdu dans la lecture. J'arrive, je fais, mais c'était quoi déjà? Elle est où la règle de machin? Et j'essayais de retrouver les trucs, c'était impossible. Et les combats étaient symbolisés différemment et tout. Puis je voyais pas comment tout se goupillait. Au bout d'un moment, le bouquin m'est tombé des mains. Il y avait plein de matos, c'était génial, mais voilà. Oui, il y avait du matos pour jouer avec 3 joueurs. Je me dis, mais attends, mais moi je joue pas avec 3 joueurs, je joue avec 5, 4, 5. Faut que je rachète des suppléments. Et puis je me suis dit, bon, voilà, ça va bien. La boîte, elle a fini sur une étagère, j'ai pu retoucher. Et puis un jour, suite à une discussion à un repas avec un ami, on a discuté longuement et il m'a dit, ben tu vois, moi ça fait un an, je ne joue qu'à ça. Donc
Et là,
voilà, je dis non, mais attends, tu joues qu'à ça, tu dois bien te faire chier. Hein. Et puis il m'a expliqué, il m'a démontré un peu par démonter mes critiques, ou en tout cas mes a priori que j'avais eu avec la boîte de base. Et il m'a dit, ouais, mais tu ferais bien de relire avec la version des livres qui ont été ressortis par Fantasy Flight derrière. Rugling dessous, hein, évidemment. Hein,
évidemment.
Mais d'un autre côté, ils ont représenté, ils me disent, voilà, c'est mieux présenté, c'est revu vraiment, ça te permettra de bien présenter les choses. Et surtout, truc important, ne t'arrête pas à la lecture, fais jouer le scénario de base qui est présenté dedans. Ouais. Et le pitch qu'il me donnait était le suivant. Il me disait, voilà, ce jeu-là, c'est un jeu, je te préviens, 3 joueurs, va pas au-delà, ou 4, c'est le maximum. C'est un jeu où le boulot pour le MJ est très important. Pour les joueurs, le boulot, il n'y a pas beaucoup de boulot. Mais le MJ, il y a vraiment du travail. Donc,
ah ouais,
si tu es prêt à ça...
Il est très exigeant.
Voilà, faut que tu bosses parce que tu auras plein de trucs à gérer. Donc voilà. Après, le côté positif, c'est que les dés sont un support narratif intéressant, parce que c'est des dés un peu spéciaux, je vais y venir. Et les scénarios sont, en termes de ce qui a été écrit et publié, c'est du niveau d'écriture d'un scénario entre guillemets à la française. Donc rien à voir avec des scénarios.
Tu veux dire qu'il est écrit en fait.
Voilà, c'est ça. Et il se passe des choses et il y a des trucs phrases. Intéressants à faire. Donc on se retrouve au final avec ce qu'ils appellent du gritty. Ils veulent vraiment faire de la Dark Fantasy Warhammer, voilà. Et donc, l'a priori, bah, pourquoi aussi Fantasy Flight a fait cette troisième édition? Je pense qu'il y a... C'est mon analyse qui s'appuie que sur mon opinion.
Oui,
voilà,
oui, oui.
Donc 100% subjectif.
Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut.
Voilà. Je pense qu'ils ont fait Warhammer 3 pour deux raisons. La première, c'est que Warhammer 2 avait été développé par Green Ronin pour Black Library. Donc le système, ils avaient repris le système de la 1, ils avaient retravaillé, bref. Donc ils ne pouvaient pas reprendre ce système-là parce que c'était Green Ronin qui avait bossé pour Black Library, donc c'était pas possible. Donc il fallait faire quelque chose de résolument différent. Après, ils avaient peut-être de grandes idées sur leur génie et sur le fait qu'il fallait révolutionner le jeu de rôle. Et voilà. Et la deuxième raison, je pense qu'ils se sont dit, voilà, le piratage des jeux de rôle qu'on retrouve en PDF et compagnie et qui font que, soi-disant, plus personne n'achète du jeu de rôle, il faut qu'on s'en prémunisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un jeu où il y a beaucoup de matos. Et que ce matos, on ne peut pas le trouver en PDF. Donc on utilise des cartes, on utilise des jetons, on est éditeur de jeux de société.
Et c'est des cartes à collectionner?
Non, c'est pas des cartes à collectionner, mais de base, tu voilà, bref. Donc dans ce jeu-là, tu as des dés, qui sont pas des dés classiques, qui sont des dés à X faces, avec des symboles dessus et pas des chiffres. Donc pas des dés que tu trouves dans le commerce classique, donc des dés que tu vas acheter chez Fantasy Flight. Des suppléments où tu as à chaque fois du matos livre, mais des cartes, des pions, des choses qui vont avec.
En fait, c'est une technique à la Game Workshop, en fait, un peu.
Alors, oui, mais dans l'absolu, Games Workshop, Games Workshop, le seul point d'entrée réel, c'est les figurines. Les bouquins, tu peux les récupérer en PDF. Hein, si tu veux être de mauvaise foi, tu t'arranges pour les récupérer en PDF et tu pourras les télécharger.
Ouais, ouais.
Mais c'est pas ce qui est le plus cher d'un autre côté.
Non,
ce qui est vraiment
ouais.
cher, c'est les figurines, ouais. Soyons clairs. Ouais, ouais. Donc leur business, c'est le vendre de la figurine. Le papier qui est autour, c'est pour emballer le reste et mettre des règles pour jouer. Mais là, dans le cas, ils se sont dit, voilà, faut qu'il y ait tout. Donc on fait du papier, on fait de la carte, on fait du pion et on fait des dés. Et tout ça, de façon, on sait le faire parce qu'on est éditeur de jeux de société. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme jeu de rôle? On veut faire un jeu de rôle qui soit collaboratif. D'accord. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeux de rôle qui sont collaboratifs. Bon, il y a aussi les jeux de rôle à la vampire où au contraire, on joue les uns contre les autres quelque part. Mais on veut quelque chose de collaboratif et on veut quelque chose où on va essayer de symboliser par des objets, des choses que naturellement certains maîtres de jeu faisaient, mais que d'autres n'ont jamais eu idée de faire. L'exemple... Il y a, je sais pas, les joueurs sont en opposition avec une secte et chacun a un objectif et ils ont chacun entre guillemets un pion qui va faire avancer pour dire entre le point 1 où ils commencent et leur réussite qui est au point 5, à des étapes cruciales qui se passent, je fais avancer mon pion. Et pour les joueurs, c'est un peu pareil, où ils sont sur la même échelle et on voit comment ils se rattrapent. Et il se passe à certains points de cette valeur, au point 3, il va se passer un événement, parce que la secte, elle arrive au point 3, donc il va se passer tel événement, au point 5, il va se passer tel événement, parce que machin.
Et alors, donc ça veut dire qu'il y a des espèces de plateaux par scénario, en quelque sorte, ou des...
Il y a, en fait, dans le livre de base, le matos de base qui accompagne le bouquin, qui avait d'ailleurs dans la boîte à l'origine, t'as des sortes de marqueurs, d'échelles, avec des marqueurs que tu déplaces, et t'en as plein, donc. Mais il peut y en avoir spécifiques pour les scénarios.
D'accord.
Donc, ce que tu trouves aujourd'hui dans ce qui se vend, tu as 3 bouquins de base, donc tu as le guide du joueur, le guide du MJ et le bestiaire, grosso modo. qui va faire l'éventail de tout. Dans le guide du MJ, tu as notamment le scénario. Et après, tu achètes des packages en plus où tu as les cartes, les dés et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, tu n'achètes plus une boîte avec tout dedans, tu achètes des bouquins et avec tout le reste séparément. Donc voilà, moi je pense que la bonne option, même s'il y a des cartes qui ont été ratées depuis, c'est de trouver pas cher la boîte d'origine, que les joueurs qui, comme moi au début, ont acheté la boîte et sont fait au secours, j'en veux plus, l'ont revendu pas cher derrière, la racheter, comme ça t'as les cartes, les dés, les pions et tout ce qui va bien, ouais. Et après t'as juste à acheter les bouquins, et comme ça t'es tranquille. Donc ça c'est la bonne. Donc, le jeu, comment il fonctionne ? Quand même, histoire de vous, parce que sinon dans 3 heures on y est encore. c'est un jeu où tu as des dés à lancer, grosso modo face à des actions, des dés avec des symboles, et plus tu as de capacité, plus tu lances de dés. Donc typiquement, tu as des caracs, quand tu fais une action, tu lances les dés de ta carac. Donc si, je sais pas, t'as, en agilité, tu as 3 dés, tu vas lancer 3 dés. Si à côté de ça, tu as une spécialité, tu as une expertise particulière dans une compétence, tu vas lancer un autre dé avec un nombre de faces plus particulier, qui aura plus de réussite intégrée dedans, et tu cumules, tu peux avoir des dés de fortune ou de misfortune. Bref, tu crées un pool de dés si tu veux et tu lances. Et ce qu'il faut dans ces totales de dés, c'est que tu as au moins 2 réussites. Donc il y a des échecs et des réussites dedans qui s'annulent vice versa. Il faut qu'à la fin, tu en aies au moins une réussite quand même. Et à côté de ça, tu as des dés qui ont d'autres symboles.
Avec des couleurs, des machins.
Des symboles qui vont dire différentes choses. Donc grosso modo, dans ce jeu-là, tu peux faire une action qui réussit et il t'arrive une merde. Et à l'inverse, tu peux rater une action et il t'arrive quelque chose de cool. Donc c'est, en fait, le dé est réellement un support narratif dans le principe. Donc il y a différents types de.
Coup après il y a des espèces de tables d'interprétation des dés.
Non, grosso modo t'as des, selon les phases des dés, t'as des marteaux et des aigles. T'as des marteaux et des boucliers, on va dire, qui sont des marteaux et des aigles qui s'annulent l'un l'autre.
Ouais.
Après t'as des comètes de Sigmar. Je sais, moi je dis Sigmar, mais vous me pardonnez, mais c'est comme ça que je le dis.
Non, mais quelque part, t'as raison, hein. En allemand,
voilà.
Ceci dit, c'est un jeu anglais à la base.
Oui, je sais.
Donc c'est de l'allemand anglais, mais bon, donc les deux, je pense, seraient...
Voilà, donc moi je dis Sigmar.
C'est de l'Almlich.
Voilà, c'est de l'Almlich. Donc, il y a des comètes de Sigmar et la comète à deux queues et le signe du chaos qui s'opposent, qui s'annulent. Il y a tout un ensemble de choses comme ça qui font que... Et typiquement, tu as des dés de caractéristiques, mais... Tu peux les remplacer par des dés plus balèzes si, par exemple, tu choisis une attitude. Donc, tu as l'attitude, tu peux être agressif ou au contraire plutôt défensif. Mmh. Et donc, à ce moment-là, quand tu es dans ça, il y a tout un ensemble de mécaniques assez compliquées au final. Dans l'absolu, c'est relativement compliqué pour le MJ à gérer parce qu'il y a plein de choses. Mais ce qu'il faut retenir du jeu, c'est qu'il y a des dés que le joueur lance, il y a des dés de difficulté que donne le MJ au joueur en lui disant « Tiens, des dés violets, ça va te donner des difficultés parce que là, c'est plus balèze. » Ou tu as une blessure, ou ah oui, mais là t'es en position d'infériorité, t'es dans un point plus bas et l'autre il est plus haut. Tiens, des dés noirs parce que là c'est pas
alors,
pratique.
En fait, ce que tu. Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que tout ce qui a trait à l'environnement ou au. S'il pleut, si ton personnage est mal placé, s'il est blessé, c'est tous ces trucs-là qui sont normalement des bonus-malus que tu comptes. Après les lancers de dés, ils sont inclus dans le...
Voilà, dans le pool de dés, tu lances tout ce qui est propre à ton personnage, tu vas rajouter d'éventuels avantages qui sont liés à l'environnement, tu vas rentrer aussi des dés de difficulté qui vont correspondre au côté balèze ou faible de l'ennemi. Donc tu vas avoir des dés de bonus s'il est plutôt faible, ou vraiment balèze, tu vas avoir des dés. Donc tout ça, ça va être... Et ces dés-là, ils ont des phases différentes chacun. Donc des dés de difficulté, forcément, il va t'arriver des crasses sur ces dés-là. Oui. Toi, tes dés d'expertise, qui est le meilleur dé qui existe, parce que t'es spécialisé en magie de combat, j'ai dit une bêtise, et lui, il a au contraire vachement plus de réussite. Et donc tout ça se joue, et tu lances tes dés, et à la fin, après avoir lancé ta brouette de dés, on interprète, donc on trie d'abord pour voir si c'est une réussite ou un échec, et après on regarde les autres symboles. Ah. Et à partir de là, si tu veux, dans l'absolu, c'est le MJ qui interprète, mais rien n'empêche au joueur de dire... d'essayer d'interpréter lui aussi ce qui s'est passé.
D'accord.
Et donc voilà. Et donc là, c'est je te donne une résolution d'action. Maintenant, parlons du reste du matos qu'il y a.
Oui.
Parce que t'as des cartes. Et toutes les actions sont généralement gérées par des cartes. Et ces cartes, elles ont deux faces. Une face, on va dire, agressive et une face défensive.
Ouais.
Parce que ces cartes, en fait, dedans, ils te disent pour si t'as tant de symboles de ça, il se passe ça. Si t'attends de symboles de ça, il se passe ça.
Ah.
Et en agressif et en défensif, mm-hmm. il se passe pas la même chose.
Évidemment.
Tu penses bien.
Évidemment.
Donc voilà. Pareil, les dés agressifs et défensifs que t'as par rapport à ton attitude.
Ouais.
Le défensif, tu vas prendre plus de temps pour faire une action. L'agressif, tu vas mettre moins de temps. Mais en revanche, tu vas avoir plus de, tu risques de prendre plus cher si tu te rates. Le défensif, si tu prendras moins cher si tu te rates, etc. Donc tout ça, c'est vraiment du support. Et bon, évidemment, après, il y a de la magie. C'est toujours, ça fonctionne toujours avec le même principe de dés. Sauf que bon, voilà, grosso modo, tu emmagasines l'énergie, tu lances tes sorts, et à la fin, tu regardes où t'en es au niveau de l'énergie que t'as dépensé, ce qui te reste, parce que tu peux burner, tu peux te cramer la gueule, parce que t'as voulu trop accumuler d'énergie, ou au contraire, si tu laisses faire, naturellement, tu vas revenir vers un point d'équilibre d'énergie. Enfin, bref, il y a tout plein de choses comme ça. Bon, évidemment, il y a la peur, la terreur, comme dans, on retrouve tout ce qu'il y a dans Warhammer. Ce qui est important de savoir au niveau du background, parce que là, je pourrais rentrer dans plein de détails, mais le but du jeu, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le système, il y a plein de choses. On n'est pas obligé de tout utiliser, ça c'est certain.
Ouais.
Pour moi, le truc qui est central, c'est l'utilisation des dés qui me paraît vraiment importante. Après, vous pouvez ignorer un certain nombre de choses. Les marqueurs, tout ça, vous n'êtes pas obligé de les faire. Les combats sont pas symbolisés avec des figurines, avec le plan à la case. C'est, on symbolise distance courte, distance moyenne, distance longue. Bref, c'est avec des. Il y a des petits. Ils vous donnent des petites figurines, quoi, des petites figurines, des petits cartons, des tokens qui sont mis sur des socles pour ça. Et puis des petits tokens qui vous disent si c'est moyenne portée, longue portée.
Ouais.
Bref. Mais bon, grosso modo, t'as même pas besoin de les utiliser dans l'absolu. Hein, tu t'en fiches.
Ouais, d'accord.
Donc c'est le combat, c'est pas assez l'anti-D&D de ce point de vue-là.
D'accord, c'est pas du placement sur des cartes avec des attaques d'opportunité
voilà.
quand tu rentres dans la case.
Et... Ceci dit, tu as des cartes d'action, tu en choisis un certain nombre parce que t'as un certain nombre de spécialités. Alors c'est ce qu'ils appellent les talents en fait. Et tes talents, t'as plein de choses. Ça va être, tu vas être spécialisé en, tu vas avoir de base t'auras l'esquive. Si t'as tel carac à un niveau suffisant, tu vas avoir l'esquive avancée, etc.
D'accord.
Et dedans en fait, quand tu vas lancer l'action, tu vas utiliser la carte. Tu vas la lever pour montrer ce que tu vas faire. Il y a une action par exemple, il y a une carte d'action qui est grosso modo manœuvre.
Ouais.
C'est une carte ou une action qui est pas décrite par quoi que ce soit d'autre. Tu vas utiliser celle-là, tu vois. Mais
d'accord.
Donc voilà, donc les cartes sont aussi un support important et il y a un choix à faire. Donc le choix pour le joueur le plus important, grosso modo, c'est quand il crée son perso et quand il choisit ses cartes d'action.
Ouais.
Et après.
Et ces cartes d'action, c'est des trucs qui se renouvellent
En fait, t'as des carrières. C'est Warhammer, donc t'as des carrières.
Mmh.
Donc en fait, quand tu choisis ta carrière à la création de personnages, t'as un certain nombre de slots dans lesquels tu vas mettre des cartes de talent. Et il y a différentes catégories de types de talents. Et donc tu sais par rapport à ta carrière. Que tu vas avoir plutôt un talent qui va être un focus, une réputation, de la réputation, de la tactique.
D'accord.
Donc, des trucs qui sont plus combat, des trucs qui sont... Voilà.
Mmh.
Et l'autre truc, pour mettre en avant le côté collaboratif, tu as une carte de groupe qui, pareil, on peut lui attacher des cartes de talent. Mais elles viennent des mains des joueurs.
D'accord.
Donc, bref, donc tu peux faire bénéficier à tout le groupe un talent que tu as récupéré.
Mmh.
Et tu peux avoir en main plus de talents que tu ne peux en utiliser, ce qui est le but du jeu. Quoi, bref. Mmh. Ils ont fait une mécanique qui, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais.
Ça... Un MJ, ça va forcément le terroriser quand il va voir tout ce qu'il y a à faire. Parce que c'est lui qui va devoir le gérer. Réellement.
Ouais,
hein.
ouais,
donc, trois joueurs, à mon avis, c'est le maximum pour se faire ses armes. D'expérience, moi, je vous dirais que la première session va mal se passer. Pourquoi ? Parce que le MJ, soit il aura super bien préparé son scénar, mais il sera pas super bon sur les règles. Donc, et ça va pêcher. Genre, le premier combat, il va pas être top. Mais par contre, au niveau du scénar, ça va être super bon. Et ou dans l'autre sens, il va être super top au niveau des règles, mais au niveau du scénar, il a pas le temps de bosser suffisamment. Ah merde, ça va pas, ça. Et donc la première session, le scénar, je crois, je l'ai joué. Le scénar de base, je l'ai joué en 3 sessions. Et donc voilà, la première session m'a pas satisfaite. Et le joueur, ça allait, mais à partir de la deuxième, là, les choses pour moi, ça y est, tout s'emboîtait, tout fonctionnait, et là, ça commençait à.
Ça donne quand même envie, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Koval, mais le système avec les dés, etc.
Ça
donne envie même de voir ce que ça donnerait en dehors de Warhammer. Si,
alors, pour précision de background, quand même, sur Warhammer,
c'est bien de voir pas mal d'innovations.
Ah oui, un petit peu le.
On oublie Archaon, ça se passe avant Archaon. Archaon. Archaon, ça se passe avant toute la campagne d'Archaon, donc c'est juste avant la deuxième édition, en fait.
D'accord.
Ils ont oublié de cette tempête.
Ils ont rétrogradé.
Ouais, ils ont rétrogradé le background pour être sûr que ce soit avant. Et ça se passe dans le Reichland. Ça se passe pas dans tout Warhammer, dans tout l'univers, dans tout l'Empire. Ça se passe dans le Reichland.
Mmh.
Et tu joues grosso modo nain humain ou elfe sylvain.
D'accord.
Voilà, c'est ce qu'on te propose. Il n'y a pas de base dans le livre de base. On va pas jouer un halfling.
Un Skaven.
Oh non, bien sûr que non. Mais voilà, donc voilà rapidement ce que je peux vous dire. Donc le scénario de base, il est vraiment intéressant. Je trouve que ça, voilà, on Je vais pas vous déflorer le sujet, mais grosso modo, ça se passe dans un vieux pavillon de chasse, dans une forêt, dans le Reichland. Et les joueurs viennent pour mener une enquête. Donc déjà, ça commence bien, tu vois, c'est pas, oui. C'est pas du donjon, hein. C'est de l'enquête. Et une enquête avec une vraie opposition sympa et avec des bons gars sympas.
D'accord.
Ça se passe bien.
D'accord.
Ça se passe bien. Vous verrez. Donc voilà, donc moi je vous le recommande. Par contre, je le recommande à des MJ qui sont forcément charpentés,
ouais.
Qui n'ont pas peur d'un système qui soit long à lire et à quoi, costaud parce qu'il y a beaucoup de choses.
Mm-hmm.
Et ne pas hésiter à tailler dedans pour vraiment prendre que ce qui vous plaît. Et au niveau des joueurs, une fois la première partie, ils vont s'habituer au symbole des dés.
Ouais.
Et puis après, ça roule tout seul en fait.
Ouais.
Mais okay. Le vrai boulot, c'est pour le MJ.
Ouais. D'accord.
Donc c'est
d'accord.
Pour les MJ bosseurs. Et par contre, les scénarios qui ont été publiés, ce qui est bien dans les suppléments de la gamme qui ont été publiés derrière,
ouais.
C'est qu'à chaque fois dans les suppléments, vous avez du background, vous avez du scénario, donc même supplément sur la magie, sur les collèges de magie, ou le supplément sur les panthéons, quoi, les clergés, vous avez du background et vous avez un scénario à chaque fois.
Ah, ça, c'est bien.
Et ça, c'est
ça,
bien.
C'est bien, ouais.
Et il y a des campagnes qui sont sorties, et ils ressortent... comment ça s'appelle ? Gathering Storm, quoi, bref, ils sortent des choses sympas. Voilà, moi j'en dis du bien.
Okay.
Pour anecdote, il y a deux sites importants qu'il faut aller voir. Si vous voulez un podcast sur Warhammer 3 en anglais, il y a recklessdice.com. Mm-hmm. Reckless Dice, Reckless R-E-C-K-L-E-2-S.
Je mettrai les adresses.
.com. Et l'autre s'appelle Liber Fanatica, qui est un fanzine à la base de Warhammer,
ouais.
Pour le 2 et pour la 3.
En anglais Liber,
aussi ouais, en anglais. Okay. Et ils sont passés à la 3. Et ils ont notamment publié une carte de malade dans une résolution de malade de tout l'Empire, zoomable à foison. Un truc qui est utilisable pour n'importe quel MJ de Warhammer, qui est juste un travail de titan. Voilà.
Ah oui, okay.
C'est génial. Okay. Voilà, bah, c'est tout.
D'accord, merci.
Merci, c'est vraiment
ouais,
très bah, intéressant.
Moi, ça, en tout cas, je sais que je ne le maîtriserai pas, mais au moins, ça me donne envie d'y jouer.
Voilà, et ben voilà, t'as tout compris. Tu sais que tu ne le maîtriseras pas. Maintenant, il faut que tu trouves le pigeon pour te le maîtriser.
Exactement. Tu fais quoi dimanche?
Je l'attendais.
Bon, eh bien, voilà, nous avons terminé ce numéro. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Ah, Cyril, tu veux ajouter quelque chose ?
Mais oui, je veux ajouter quelque chose.
Non.
Pourquoi tu n'as pas posé la question ?
Mais écoute, je ne sais pas.
Je fais exprès de me réserver une news juste pour t'embêter à la fin.
Ah, est-ce que tu auras une news pour embêter Cobalt, s'il te plaît, Cyril ?
Allez, vas-y.
Alors, j'ai une petite news, en fait. Vous ne le saviez pas, mais il n'y aura pas de Grande Masquerade cette année. La Grande Masquerade, on en avait parlé sur ce podcast, c'était
ouais,
la convention Vampire. En revanche, les fans ont décidé de faire une convention alternative qui aura apparemment à peu près toutes les grandes attractions de la Grande Masquerade. Simplement, ils ne vont pas la faire à la Nouvelle-Orléans, ils vont la faire à Atlanta. Donc ça se passera, pour ceux qui sont intéressés, du 27 au 30 septembre, Atlanta by Night. Et pour les renseignements, c'est www.atlbynight2012.com. Voilà.
Ah, et moi aussi, j'ai une dernière petite news. Je suis tombé hier sur un documentaire que j'ai trouvé absolument excellent, qu'on trouve sur Dailymotion, qui s'appelle « La Terre après les humains ». Alors, pour tous les gens qui sont intéressés par ce type de problématique, même pour faire de la SF ou imaginer... ce qu'il peut rester d'une ville après 10 000 ans, par exemple. Et bien, ce truc est absolument passionnant. Bon, il a quelques défauts, notamment, tu vois les mêmes images 15 fois, il est très américain dans son ton, quelque part, mais au niveau...
Tu veux dire qu'il donne des leçons ?
Oui, puis tu sais, avec un côté mélodramatique cucu.
Comme les Américains savent si bien le faire.
Voilà, savent si bien le faire, mais en plus, le truc est québécois.
What the fuck.
mais par contre, t'as des intervenants assez sympas. Il y a David Breen notamment qui apporte aussi. Donc il y a plein de scientifiques.
Qui est assez engagé hein, comme comme auteur de science-fiction. David Breen.
Ouais.
Ouais. Sur son blog et tout, il est assez.
D'accord.
Ouais.
Et donc ils ont interviewé plein de scientifiques en leur demandant qu'est-ce qui se passerait si telle ou telle structure métallique ou. Qu'est-ce qui se passerait, que deviendraient nos immeubles et tout, et c'est moi j'ai trouvé ce truc absolument fascinant, ça m'a fait rêver en voyant des images. En plus ils ont des SFX qui sont un peu moyennes, on va dire, ça serait moche dans un film, mais pour un doc comme ça c'est juste fabuleux. Tu vois des immeubles qui sont couverts de verdure, tu vois les rues de Paris avec des arbres et tout, c'est fabuleux.
Les rues de Paris avec des arbres, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé.
Voilà, non, tu vois, c'est ça la science-fiction.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, ça donne envie de regarder pour pouvoir se moquer ensuite du côté cucu de ce qu'ils auront fait, mais non, plus sérieusement, ça a l'air intéressant.
Ouais, ouais, c'est vachement sympa.
Rappelle le titre ?
La Terre après les humains.
Je crois que j'irai le voir dès que j'aurai le temps.
Voilà. Bon, cette fois-ci, on a terminé,
oui.
Cyril. Voilà. Michael.
Bon, je vous avais promis d'être court, j'avais menti. Mais bon, ça, c'est la règle de base. Hein. Vous ne le saviez pas maintenant, vous le saurez. Mais par contre, je ne vous promets pas de revenir régulièrement. Hein.
Ouais, bah,
c'est un peu le périple. Hein.
Ouais.
Voilà.
Bah, donc, écoute, de toute façon, tu seras toujours le bienvenu.
C'est gentil.
Et
maintenant qu'il y a de la pizza, je suis partant.
Ah bah, il y en aura toujours. Bon, eh bien, nous vous disons au mois prochain. Cette fois-ci, j'essaierai d'être un peu plus rapide sur le montage. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à la prochaine fois. Salut.
Bye bye.
Salut.